Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce live Twitch. J'espère que vous nous voyez et que vous nous entendez. Je suis en compagnie de Mathieu et Tiffen. Est-ce que vous allez bien, Mathieu,
Très,
Tiffen?
très bien, et toi?
Très bien, toi, Ordem.
Tout le monde va bien. Le chat va nous dire si tout est en ordre côté technique. Effectivement, j'avais mal actualisé le titre. Maintenant, il devrait être actualisé. Ce soir, on parle de comptabilité écologique. On est une petite vingtaine, ça va se remplir tranquillement, ça commence gentiment à 20h30 et ça va venir petit à petit. J'aurais pu faire une petite relance sur Twitter peut-être, mais je peux faire ça encore maintenant. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? On va commencer par Tiffen.
Oui, pas de souci. Alors donc moi c'est Tiffen, donc je suis doctorante en troisième année en économie à l'université de Toulouse Jean Jaurès et je fais ma thèse sous la direction de Géraldine Projet qui est professeure d'économie et d'Alexandre Rambaud qui est professeur de gestion. Et pour le dire dans les très grandes lignes, ma thèse traite de la thématique du climat dans la comptabilité écologique et dans un modèle spécifique qui s'appelle le modèle CARE et le lien qu'on peut faire avec les politiques publiques sur ce sujet. Voilà, en gros.
Ok, et Mathieu.
Ok, eh bien, bonsoir à toutes et tous. Moi, c'est Mathieu Astic. Pour le coup, moi, je ne suis pas en thèse. Je travaille aujourd'hui comme conseil en RSE et précisément sur la question de comptabilité écologique. Un petit retour, j'ai une formation en économie, une formation en stratégie RSE, et c'est là-dedans, ce cadre-là, dans un master en recherche, que j'ai croisé la question des comptabilités écologiques. Et derrière, en tirant le fil, ça m'a amené à ce qu'on va parler ce soir, en fait, donc à savoir de comment intégrer en comptabilité des questions de durabilité, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui ne fait pas sens. Et donc, aujourd'hui, je travaille pour une boîte, pour une entreprise d'expertise comptable, en conseil aux dirigeants sur les questions de durabilité et donc d'intégration en comptabilité des enjeux écologiques. Et dans ce cadre-là, je travaille avec des chercheurs, donc la chaire de recherche en comptabilité écologique, d'où dépend en fait de Tiffen également pour sa thèse, en partie, de Rhin-Champagne-Ardenne, de Poitiers, de Dauphine. Voilà, et donc je fais la passerelle en fait entre la partie recherche et la partie mise en pratique opérationnelle en entreprise. Et voilà, dernier petit truc que je peux dire éventuellement en plus, c'est qu'il y a une association qui s'appelle le CERCES, moi je suis comité de direction de cet asso, et effectivement on a pour but de porter les questions de comptabilité écologique dans la société civile, en termes de plaidoyer, en termes d'acculturation, et voilà. Comme ça vous avez l'ensemble des casquettes d'où je parle, pour ma part.
Ok, très bien. Et je crois que pour commencer le sujet, Tiffen, tu voulais nous montrer ta thèse en 180 secondes. Alors attends, laisse-moi afficher ton écran. Hop, est-ce que ça fonctionne? On est là. Si tu veux la lancer. Tu veux la regarder d'un coup? Tu veux la commenter au fur et à mesure? Bon, à 3 minutes, on peut la regarder d'un coup, je pense.
Ah, oui.
Let's go.
Ok, bon, je lance. Alors.
Bonsoir. Alors moi, je vais vous parler de réchauffement climatique et de comptabilité. Ouais. Je vois du rêve, là, dans vos yeux. En même temps, je vous comprends, parce que moi aussi, quand j'étais petite, je rêvais de faire de la compta, d'avoir ma propre calculette et d'intégrer le réchauffement climatique dans la comptabilité des entreprises. Non? Ok. Le lien entre les deux est peut-être pas évident, mais vous allez comprendre. Premier problème. D'après Evelyne Delia, et accessoirement, si on continue comme ça, 45 degrés, ce sera une température de saison en 2050. En gros, notre maison brûle et la comptabilité regarde ailleurs. Et ça, mesdames et messieurs, ça a toute son importance. Parce qu'elle regarde quoi? Elle regarde tout ce qui fait l'activité de l'entreprise. La rémunération des actionnaires, le niveau des salaires, les matières premières. Et là, il y a un truc très fort avec la compta, c'est que simplement en regardant, elle rend un peu. Ce que la comptabilité décide de montrer devient instantanément une source de préoccupation que l'on suit, que l'on classe, bref, qui compte. En énonçant bénéfice ou déficit, elle se retrouve alors derrière toutes les décisions stratégiques. Mais, oui, bien, globalement, la compta, elle s'intéresse vraiment qu'à une chose, le fric. Et là, on a un deuxième problème. agir pour le climat, ça coûte de l'argent, ou ça nécessite de renoncer à faire de l'argent. En bref, on est foutu. À moins que. Il existe une méthode qui cherche à intégrer dans la comptabilité les enjeux environnementaux pour qu'ils deviennent à leur tour une source de préoccupation que l'on suit, que l'on classe et qui compte. C'est la comptabilité CARE. Et c'est cette méthode que j'utilise dans le cadre de ma thèse. Et pour ça, la première chose à faire, c'est trouver des entreprises pour expérimenter. Et vous l'avez compris, hein, c'était pas gagné. Coucou, ça vous dirait qu'on limite vos émissions de gaz à effet de serre et qu'on définisse des actions concrètes ensuite et qu'on fasse une petite estimation de combien ça va vous coûter. Et puis encore mieux qu'à la fin, on suive le remboursement de cette dette dans vos comptes et que c'est genre aussi important que de rembourser votre prêt bancaire. Ben ça a marché. Et ça m'a permis d'affiner la méthodologie. À travers le regard de la comptabilité, j'ai pu tirer les fils de la construction des politiques répercussions sur les entreprises. Bon, et parfois aussi de constater que les fils que je tentais de tirer n'étaient reliés à rien du tout. Ma thèse devrait alors permettre d'inclure le climat dans les décisions stratégiques, mais aussi de faire des recommandations sur la base de la comptabilité CARE afin d'élaborer une vraie fisca du climat, conditionner les subventions, adapter le droit des sociétés, revoir le partage des bénéfices, en somme, redéfinir la place de l'entreprise dans les politiques climat. Tout ça m'amène alors à conclure que, comme moi au départ, probablement comme vous, 3 minutes en arrière, les économistes auraient tort de considérer la comptabilité comme un truc ennuyeux, technique et poussiéreux, parce que demain, c'est peut-être elle qui changera le monde.
Ben voilà, ça présente bien les enjeux dont on va parler ce soir. Déjà, Kiffen, ma thèse en 131 secondes, du coup, c'était une bonne expérience parce que j'ai fait ça aussi en montant.
Franchement, ouais, c'était vraiment une expérience géniale. À Toulouse, on a eu des formateurs qui étaient vraiment au top, qui ont vraiment amené ça, pas forcément direct comme un concours, mais plus comme une formation et puis des premiers pas sur la vulgarisation scientifique. On a pu jouer dans à la fois à la présélection et dans les phases finales dans un théâtre. Donc c'était vraiment très très chouette. Il y avait vraiment une dimension spectacle et tout le monde était vraiment brillant. Et pareil, même sur les demi-finales nationales, c'était aussi une expérience géniale parce qu'on rencontrait des doctorants qui venaient de partout, qui avaient des sujets hyper passionants. Et vraiment, je recommande. Enfin voilà, je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais moi j'ai trouvé ça vraiment génial.
Ouais, moi j'ai bien aimé l'exercice, ouais. Même si j'étais pas aux demi-finales. j'ai trouvé ça intéressant comme exercice. Mais moi j'aimais bien ça avant. J'avais fait pas mal de théâtre et d'impro et tout, donc. Ça, j'étais attiré par ce truc-là de base et ça m'avait bien plu de parler de ma thèse dans ce contexte. Et la vidéo est dispo sur ma chaîne, vu que j'ai pas d'enregistrement comme j'étais pas au demi-finale, mais j'en ai pour ma chaîne. Ok. Et donc, on est parti sur ce sujet de la comptabilité. Et avant de parler climat, je pense que vous vouliez tous les deux nous expliquer un peu la compta.
Et oui, tout à fait.
Tiffaine ou Mathieu, lequel se lance ?
Vas-y Mathieu, du coup j'ai occupé la place pendant 3 minutes à peu près. Donc...
D'accord, si tu veux, on se fait comme un débat politique, on est dans la mouvance en ce moment.
Exactement.
Rodolphe au prompteur. Ok. Non, bah, du coup, la question de la comptabilité, donc si déjà, je ne sais pas combien vous êtes à suivre le live ce soir, j'espère qu'on n'a pas fait fuir tout le monde. Ça peut paraître aride, ça peut paraître technique, on peut penser à des tableaux Excel avec des chiffres dedans, un passif, un actif, des mots pas forcément toujours qu'on a envie de voir. Alors qu'on dézoome, là je vous ai amené un peu en arrière, on va remonter à la Mésopotamie, donc il y a 10 000 ans, en fait, à l'époque où est apparue la comptabilité. Donc, ça pour dire qu'en fait, la comptabilité, c'est un élément, c'est quelque chose qui a accompagné, qui a permis le développement des sociétés humaines jusqu'à aujourd'hui, et qui a des grandes fonctions, en fait. Donc, notamment des fonctions de pouvoir en fait, prendre en compte des redevabilités, des échanges, compter, mais aussi avoir un élément pour partager. C'est-à-dire qu'en un sens, les comptabilités représentent le monde. Et derrière, cette représentation du monde, elle se fait aussi en fonction de nos lunettes, de notre regard par rapport à ce monde. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, depuis la Mésopotamie aujourd'hui, en Mésopotamie, finalement, l'enjeu, c'était de dire dans un village, avec la sédentarisation, eh bien, on peut avoir des débuts d'échanges entre familles. Je te prête du... Je te, je t'apporte du blé ou je te passe un troupeau de moutons. Derrière, on avait des troupeaux de moutons. C'était formalisé par une boule en argile avec à l'intérieur des tokens, des jetons dedans. Et en fait, on ne savait pas compter à l'époque, mais chaque jeton, c'était le dénombrement d'un membre du troupeau. Ce qui fait qu'à la fin, quand on rendait le troupeau à la personne qui l'avait apporté, eh bien, quand on cassait la boule d'argile, on avait les jetons, on pouvait voir si le troupeau avait augmenté ou diminué en taille. Là, c'est une forme de comptabilité, par exemple. On pouvait avoir aussi les chasseurs de baleines, qui est une comptabilité, où ils suivaient la comptabilité des fûts, des jars d'huile de baleines. Donc, c'était représenté dans des cahiers, des petits cahiers que tenaient les baleiniers. On avait des baleines schématisées dedans, avec le nombre de jars d'huile par baleine chassée. Voilà, c'est différentes formes de comptabilité qui ont pu exister jusqu'à aujourd'hui. À ce fameux bilan et compte de résultats qu'on a sur Excel ou PDF avec un actif, un passif, et qui aujourd'hui raconte la vie de l'entreprise, entre guillemets. Voilà pour une première introduction très rapide et historique. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux ajouter un élément là-dessus pour faire un peu de dézoom ou on rentre dans le dur?
Alors ensuite la comptabilité, donc effectivement comme l'a dit Mathieu, après on peut montrer peut-être si jamais des tablettes cunéiformes un petit peu là sur les premières formes de compta, parce que du coup il faut savoir quand même que ça arrivait avant l'écriture.
Je peux te mettre ton écran si tu veux.
Alors attends,
si t'en as
parce que
sous
j'ai
le coude.
pas. Ouais, je suis en train de
et Jira 335 disait c'était des reconnaissances de dette finalement sur ces tablettes, les troupeaux de...
C'est exact. C'est exactement ça, c'est des reconnaissances de dette.
Donc on a reconnu les dettes avant d'écrire des romans, c'est beau.
Ah oui.
Donc voilà, donc ça par exemple, c'est une tablette cunéiforme, donc avec des inscriptions comptables. Donc, qui sont parmi les premières formes d'écriture. Donc, il y a aussi sous forme de petites boules aussi, comme disait Mathieu. Enfin, il y a plein de manières de faire de la compta. Donc, finalement, c'est assez. C'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est que quand on regarde vraiment ce que c'est pas que le truc un peu aride de la matière qu'on a absolument envie d'éviter ou la personne qu'on a envie d'éviter. Et c'est, enfin voilà, ça raconte aussi plein de belles histoires. Et les premières formes de monnaie, c'est même des reconnaissances de dette comme ça qu'on se faisait passer sur. J'en avais là, sur des cours par exemple, j'en montre à des étudiants des fois sur les reconnaissances de dette de factures de bière ou des choses comme ça qui sont déjà à l'époque, c'est intéressant.
En tout cas, cette tablette, ouais, c'est déjà de la compta parce que j'ai du mal à la lire et à comprendre ce qu'il y a dessus.
Alors, moi aussi, mais ce n'est pas fait spécialité Mésopotamie.
Ouais, et pour répondre à Mathieu tout à l'heure, on est déjà 70 là sur le live. Et normalement, ça grimpe un petit peu jusqu'à 21h. Vous avez 70 personnes qui vous écoutent parler de compta. Donc, ça, c'est l'aspect historique.
C'est ça. Et, voilà. Et après, il y a aussi tout un aspect qui est vraiment hyper politique. Puisque quand on commence à s'intéresser aux formes de comptabilité, parce qu'on est toujours sur la comptabilité, c'est un truc super neutre, et il n'y a pas que nous d'ailleurs, même les experts comptables, ils ont tendance à percevoir eux-mêmes leur profession comme étant quelque chose d'objectif et où il n'y a pas du tout de politique derrière, alors qu'en fait, tous les choix qu'on a en compta, c'est des choses qui sont à la base des choix politiques. Typiquement, par exemple, si on compare des comptes de résultats, par exemple, de l'URSS, de la Yougoslavie et des comptes de résultats américains, on voit qu'on ne va pas du tout compter la même chose. Par exemple, en URSS, où on a une collectivisation des entreprises... on va pas retrouver les charges d'impôts, par exemple, puisque c'est des entreprises qui sont étatiques. En Yougoslavie, comme on était sur des entreprises autogestionnaires, on retrouve pas les charges de personnel, puisque c'est pas quelque chose, vu que c'est des entreprises autogestionnaires. Et en fait, tout ce qu'on trouve dans la compta, c'est fondamentalement ce qui a été... Ça reflète le modèle économique dans lequel on se situe et les choix qui sont faits. Donc, c'est... C'est assez intéressant, il n'y a pas de questionner ça, c'est questionner la manière dont on perçoit la richesse. Puisque, enfin, c'est ce que j'essayais d'expliquer au tout début sur le petit passage sur ma thèse en 180 secondes, c'est qu'en fait, la comptabilité, elle est performative. Donc, c'est-à-dire qu'elle crée quelque chose. En fait, à partir du moment où on lit un compte de résultat, s'il y a marqué bénéfice, on sait que ah, c'est une entreprise qui se porte bien, donc dans laquelle on peut investir, dans laquelle on peut faire des choses. Donc en fait, rien que le fait de dénoncer quelque chose crée quelque chose. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant aussi.
Donc il y a un gros choix politique sur ce qu'on choisit de compter, quoi.
Exactement. Et par exemple, pour faire je vais faire un enjambé sur un point important, mais juste pour l'anecdote, la création de l'amortissement en comptabilité qui permet, entre guillemets, quand l'entreprise achète une machine, derrière, la question, on doit l'amortir sur la durée de la machine pour pouvoir en fait garantir son renouvellement dans le temps. Et en fait, c'est apparu en comptabilité avec la révolution industrielle, parce que ce qui s'est passé à l'époque, c'est que il n'existait pas d'usine ni de machine à cette époque-là, entre guillemets. Et donc, ça n'avait pas de valeur en comptabilité. À l'époque, il y avait une valeur qui était uniquement pour ce qui était déjà existant, en gros des châteaux, des terres, très schématique, hein. Et donc, c'était un vrai débat, un vrai push, j'ai envie de dire, des nouveaux industriels pour créer cette question d'amortissement, pour pouvoir en créer une valeur dans leur comptabilité, de dire, bah voilà, j'ai littéralement dépensé de l'argent pour créer une usine et des machines. Derrière, j'ai besoin qu'on puisse garantir sa préservation, son existence. Donc là, c'était une vraie question de bras de fer en fait politique entre des industriels et finalement la noblesse d'époque.
Ok.
Et après, bon, si j'enchaîne, puis Tiffany, je te laisserai revenir en arrière ou compléter, ou on verra, ça va être un peu, je pense, auto-construit. Et s'il y a un point aussi important par rapport à la question de la comptabilité telle qu'on la connaît aujourd'hui, la comptabilité moderne, elle apparaît au XVe siècle en Italie. Et en fait, on a à l'époque des commerçants qui commercent en Méditerranée. Donc ça devient complexe, on commence à avoir des échanges un peu dans tous les sens. Et la problématique de ces chers commerçants, c'est de se dire, ben voilà, je veux pouvoir avoir la garantie que mon entreprise puisse me rendre mon argent. Et donc ça veut dire que je vais pouvoir suivre ce que je vend le boulet méditerranéen, que ça puisse revenir en sous, en monnaie trébuchante dans la poche de l'entreprise, qui puisse ensuite me rembourser. Et en fait, on crée la comptabilité moderne en disant l'entreprise va inscrire dans ses dettes, ce qu'on appelle le passif, ce que l'entreprise doit à son propriétaire, à l'actionnaire. Ce qui
Ok.
fait que la comptabilité moderne, depuis le XVe siècle, a pour, on va dire, une caractéristique première, garantir la préservation, le remboursement du capital financier à l'actionnaire. Et aujourd'hui, en fait, la comptabilité d'une entreprise fonctionne encore comme ça, on parle de comptabilité en coût historique. Et ça, c'est le point fondamental, on va dire, après, on peut toujours avoir s'amuser sur dater le capitalisme, d'où ça commence, mais on pourrait s'amuser à dire que voilà, on prend première base du capitalisme actuel pour être au XVe siècle avec les commerçants vénitiens.
Oui, complètement. Et ça donne en plus une assise morale aussi au capitalisme, puisque ben, y a des thèses de Weber qui disent que notamment, il y a plein de choses qui expliquent l'avènement du capitalisme. Évidemment, c'est pas il n'y a pas qu'un seul facteur, mais il parle par exemple, lui, beaucoup du protestantisme, puisqu'il y a la possibilité de faire de l'argent. Qui est quelque chose qui est extrêmement mal vu chez les catholiques. Et en plus de ça, du coup, cette manière de comptabiliser, ça vient appuyer encore cette possibilité morale de faire de l'argent, puisqu'on retrouve d'ailleurs dans des livres de comptes que le profit est marqué comme profit que Dieu a bien voulu me donner. Donc il y a vraiment ce côté morale religieuse qui entre en ligne de compte avec ces. Avec ses comptes, justement, d'ailleurs, tout simplement.
Ok, on a Jacara 2 qui nous dit Luca Pacioli est très sous-estimé. Je ne sais
Ah
pas qui
oui,
c'est, mais.
ah,
c'est Luca Pacioli, en fait, il est considéré comme le père de la comptabilité moderne. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, alors, il a fait un travail énorme, hein, mais il a écrit la Summa de Arithmetica, qui est. En fait, la synthèse de tout ce qui se faisait en comptabilité à ce moment-là. C'est lui qui écrit le bouquin en disant bah, c'est ça qui se fait à tel endroit, c'est des pratiques intéressantes, il faudrait le premier un peu normalisateur quelque part, mais il n'a pas inventé la comptabilité. Il a repris ce qui était déjà fait, mais ce qui est un travail fabuleux déjà pour l'époque.
Et Lameneg nous dit: bonsoir, super sujet. Je me demande qui décide des normes comptables UE VS nationale. Oui, je pense à la série Parlement. On va peut-être y venir du coup. Peut-être qu'il est un peu en avance, sinon on peut lui répondre plus tard.
Ouais. Eh bien, effectivement, la question de qui édite les normes comptables. Alors, déjà, merci de la question. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui cherche à suivre un petit peu les débats qui sont justement c'est des débats d'experts et qui justement d'être plus mis en lumière au niveau de la société civile, parce qu'en fait, quand on touche aux normes comptables, on touche au fonctionnement des entreprises et des organisations. En fait, on touche à tout derrière. Et aujourd'hui, la question de la normalisation comptable est un peu confisquée au niveau international par l'ISSB, qui a... Alors, je vous décrirai pas l'acronyme, je l'ai pas en tête, j'aurais dû me faire ma liste d'acronymes. On va essayer d'en faire le moins possible, c'est très barbare dans ce monde-là. Mais donc, cet organisme-là, qui est une association de droit privé anglo-saxonne, édicte des normes internationales pour dire comment on doit rendre compte, en fait. En tout cas, les grandes entreprises doivent rendre compte en comptabilité. Derrière, après, au niveau des pays, on a des droits également comptables au niveau des pays, mais aussi au niveau européen. L'Europe, aujourd'hui, est en train de travailler sur des normes plutôt encore extra-comptables. On arrive vers titiller donc comment on intègre des questions de durabilité en comptabilité. On n'y est pas encore, ils sont en train de faire les premiers pas vers ça. Voilà. Mais en tout cas, au niveau international, il y a une association indépendante anglo-saxonne qui édite des normes, et après au niveau des pays aussi. Peut-être que Tiffen, tu as plus de précision que moi là-dessus. C'est vrai que...
Oui, alors en fait, en gros, effectivement, bah, comme l'a très bien expliqué Mathieu, il y a un normalisateur international et il y a aussi des normalisateurs au niveau français. Donc, on a l'ANC notamment qui est le normalisateur français. En fait, en gros, il y a vraiment deux. Il y a plusieurs visions de la comptabilité. Il y a des normes. Chaque pays, en fait, a ses propres normes. En Europe, par exemple, on n'a pas une comptabilité même classique qui est complètement harmonisée. Chaque État a sa propre législation. Et après, il y a des organismes qui cherchent à faire en sorte que ces normes-là soient les mêmes. Mais en fait, c'est logique puisqu'on a envie de pouvoir comparer une entreprise française avec une entreprise allemande, avec une entreprise américaine ou mexicaine. Enfin bref. Voilà, on essaye d'avoir le plus d'éléments comparables parce que sinon c'est difficile de voir et surtout qu'on a des sociétés qui sont aussi internationales. Donc, typiquement, dans plusieurs pays, la question c'est ben, quelles normes comptables j'applique si je produis en Asie parce que j'ai une partie qui est de ma production qui est là-bas, que j'ai la conception qui est en Europe au hasard. C'est compliqué de savoir quoi voir. Et donc là, il y a plusieurs. Là, ce qui gagne pour l'instant, c'est plutôt les normes IFRS. Donc, bref, c'est les normes internationales qui sont plutôt axées sur des comptabilités type anglo-saxonne et qui ont une vision plutôt actionnariale. On va dire que l'intérêt, c'est d'avoir des informations à destination des personnes qui financent les entreprises. Donc c'est une vision, c'est une vision comme ça. Et les normes européennes visent plutôt à avoir une vision le prudente de la gestion comptable. Donc typiquement par exemple, une des grosses différences entre ces normes-là, ça va être que les normes internationales, elles vont faire en juste valeur, donc c'est-à-dire on veut toujours savoir si jamais je revends quelque chose, combien ça me rapporterait si je le vends maintenant. Donc avoir tout le temps une actualisation quelque part de la valeur de mes biens, alors qu'en Europe, sur des comptabilités comme on a en France par exemple, tu achètes un ordi, tu vas dire que tu l'as payé 800 euros et c'est ça qui va rester dans ta compta. Si demain ton ordinateur il double de valeur, je sais pas, parce que admettons ça devient un ordi vintage très stylé, tu vas pas l'intégrer dans ta compta. Par contre, si il devient obsolète pour X ou Y raison et que tu risques de devoir le changer plus tôt que prévu, tu enregistreras le fait que
Qui perdent de la valeur.
qu'il perd de la valeur. Voilà. Ce qui n'est pas le cas du coup de l'autre côté.
Ok.
Enfin, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. De l'autre côté, on va aussi enregistrer les plus-values possibles. Et ce qu'on ne fait pas en Europe. Parce que c'est des visions un peu différentes. Et du coup, ça se retrouve après dans l'état écologique aussi, ça, d'ailleurs, pour commencer à teaser la suite.
Voilà, c'est du coup, on rentre dans le vrai débat de fond d'experts qui est aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que on intègre les questions de durabilité avec une approche à l'anglo-saxonne en juste valeur, à savoir est-ce qu'on va commencer à considérer la nature comme des sources de richesses futures, ou alors on considère la nature comme des écosystèmes qu'on veut préserver, dont on va chercher à préserver pour ce qu'ils sont, pour leur existence réelle. Et donc là, on rentre dans le débat de fond, en fait. Et à la limite, vu qu'on a parlé de Parlement, c'est là qu'on peut caler l'extrait de Parlement.
Ouais, alors attends,
Éventuellement,
je mets
c'est
ton
sur
écran.
mon écran, ouais. Tac.
Attends. Je crois que j'ai pas ton écran. Laisse-moi 2 secondes.
Ouais, vas-y.
Laisse-moi 2 secondes. Je te dis quand c'est bon. Ok, c'est bon. Mets-le en plein écran par
Ok,
contre.
ouais. Hop, grand écran. Oui, le grand écran, c'est
Donc
bon.
série Parlement qui passe sur.
Alors, c'est une série Parlement qui passe sur France 5. Là, il est en accès gratuit sur la plateforme de France TV.
Ok.
Donc, vous avez juste à vous créer un compte et puis c'est parti. Donc, il y a 3 saisons. Donc, là, c'est un extrait de la saison 2. Donc, la saison 2, en fait, il y a un fil conducteur avec la question de la comptabilité écologique. Donc, c'est. Au-delà du fait qu'il parle de comptabilité, la série est très drôle et on apprend beaucoup de choses sur le fonctionnement des institutions européennes accessoirement. Donc voilà. Et là, en fait, on est à la fin de la saison 2 où il y a des négociations entre une équipe au Parlement et un autre groupe opposé qui veut justement faire sortir de la négociation la question de la comptabilité. Et donc le groupe se dit, mais pourquoi il va à tout prix dégager la comptabilité de la négociation?
Ok.
Hop. Allez, je
Alors,
peux descendre.
pourquoi il n'y a pas le son?
Hop là. Ouais.
Tu l'as mute, je crois.
Mute, c'est pas vrai. Ah, mais
Peut-être l'onglet, non?
c'est mute, je pense.
Sur le partage. Alors,
Comment?
attends, je peux
C'est là,
peut-être.
c'est bon, j'ai trouvé.
C'est bon?
Hop.
Je te dis si on a le son.
Allez. Oh là là, ça remarche. Ah, mais je suis pas sur le bon onglet, c'est pour ça. Tac. Allez, je vais me faire la main. Allez, hop.
Are they so eager for us to drop it if it has no value? What's the deal with reporting and accounting directive?
It's directive about accounting, mostly, and about. It's about reporting most, more or less. Maybe about financial.
It's about transforming capitalism. Capitalism and modern accounting are two sides of the same coin. Capitalism only values what it counts: cash flows, capital stocks, human resources, all that appears literally on its bottom line. What capitalism does not count, it doesn't value, and it can't manage, like the environment, ecosystems. If we start including nature in accounting tables, capitalism will start understanding environmental damage form of debt. And that could change everything.
Oh, la 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 la.
So if we transform accounting, we transform the whole system.
Are you kidding me? That's what I've been saying all along.
What? This is not what you have been saying.
Ok.
Voilà pour l'extrait qui plante un peu le décor. Et effectivement, là, la personne qui se lève à la fin, c'est un député scandinave, et justement, il essayait une scène d'avant d'expliquer à ses collègues mais pourquoi la comptabilité est extrêmement importante en n'arrivant pas à l'expliquer. Donc, pour le coup, c'est des fois des choses qu'on une tracée du désert, que toute personne qui arrive sur le sujet au début, qui n'a pas encore trouvé la bonne façon d'aborder la thématique, se retrouve désemparée en disant mais je suis trop technique ou trop compliqué ou trop pas de quoi il en retourne. Et voilà. Donc c'est le sujet de la soirée.
On comprend l'importance de ce qu'on compte si on veut changer le système. Et du coup, comment on peut intégrer l'écologie? C'est ça la prochaine question un peu. Je pense que le chat est au courant des problématiques écologiques et des problématiques de climat. Et du coup, maintenant, comment on peut faire entrer ça dans la compta?
Tu veux commencer, Tiffaine?
Oui, pourquoi pas. Déjà, j'ai vu dans le chat là, qu'il y a quelqu'un qui parlait de la CSRD. Effectivement, c'est le premier sujet. Parce qu'en fait, quand on rentre dans les comptabilités écologiques, il y a plein de modèles qui existent et tout de suite, on pense plutôt aux comptabilités extra-financières. C'est-à-dire, en gros, ce que les entreprises communiquent sur leurs enjeux environnementaux et sociaux. Donc, jusqu'à présent, il y avait une directive qui était en place, mais qui imposait pas beaucoup de choses sur le plan, sur le fond et sur la forme. Typiquement, par exemple, elles n'avaient pas forcément l'obligation de se fixer des objectifs. Donc, c'est je fais un bilan carbone, mais je n'ai pas forcément besoin de me fixer des objectifs pour... en disant à l'horizon 2050, par exemple, en disant j'essaie de devenir neutre en carbone à l'horizon 2050, c'était pas très grave. Donc là, aujourd'hui, ce qui change, c'est que on a au Parlement européen qui a été votée, donc la fameuse norme CSRD, donc oui, c'est un petit enfer d'acronyme tout le temps. Mais donc en gros, c'est la norme qui dit c'est comme ça que vous devez faire comme ça que vous devez communiquer sur vos informations extra-financières. Et là, notamment, ça va un peu plus loin, puisque typiquement pour le climat, les entreprises maintenant, les entreprises soumises à la CSRD, donc les grosses entreprises, mais ça élargit aussi le spectre des entreprises qui sont soumises. Elles vont devoir faire ce qu'on appelle des plans de transition qui, selon la directive, doivent être en accord avec les accords de Paris. Donc se fixer des objectifs. Alors après, personne ne va venir leur taper sur les doigts si elles ne respectent pas leur trajectoire, mais elles ont l'obligation au moins d'établir des plans de transition. Donc ça, c'est assez déjà.
Ok.
Et j'ai vu que Mathieu, tu veux lever le doigt. Mais...
ouais, je vais faire une petite précision sur l'aspect CSRD. Alors je ne sais pas s'il fallait expliquer l'acronyme qui est Corporate Sustainability Report Directive. Directive, voilà, bonne digestion. Non, après derrière, effectivement, dans la CSRD, il y a 10 thématiques. Il y a une thématique de gouvernance, 5 thématiques environnementales et 4 thématiques sur les aspects humains. Donc dans les thématiques environnementales, on a le climat, la biodiversité, qu'est-ce que j'ai pas dit, et l'eau, voilà. Et sur l'humain, avec les employés, les sociétés touchées, les employés de la chaîne de valeur. Et voilà. Et donc derrière, effectivement, les entreprises vont devoir dire ce qu'on appelle de faire une analyse de double matérialité. Donc là, encore un terme barbare pour dire qu'en gros, l'entreprise va devoir regarder comment est-ce qu'elle impacte l'environnement. Donc on parle de matérialité d'impact. Comment est-ce qu'elle impacte? Comment est-ce qu'elle dégrade quelque chose? Et ou alors comment l'environnement, la société peut l'impacter. Donc quels sont les risques qu'elle a ou quelles sont les opportunités qu'elle peut avoir? Donc, et du coup, en faisant cette analyse-là, elle va dire, voilà, mais en fait, par exemple, voilà, par rapport au climat, j'émets des gaz à effet de serre, donc le climat est quelque chose de matériel, il va falloir que je prenne en compte. Quand elle va dire ça, elle va devoir, du coup, la norme va lui dire, ok, vu que le climat est matériel pour toi, et en l'occurrence, ce que dit Tiffany, c'est que, grosso modo, personne ne peut échapper au climat, c'est ça, après, derrière, l'entreprise va devoir dire, quelles sont mes politiques, comment je compte aborder la question climatique, derrière quel objectif je me fixe. En fait, la question se pose et la norme n'oblige pas à respecter l'accord de Paris. Elle va dire, donnez-nous votre trajectoire et dire est-ce qu'elle est en accord avec l'accord de Paris. Est-ce que c'est comme ça, 40 degrés ou plus. Et donc derrière, et ben, comment vous suivez ça? Quels sont les indicateurs que vous mettez en place pour atteindre la cible que vous appliquez? Et quelles sont les actions que vous avez mises en place? Comment ça fait? Quels sont le chiffrage de ces plans d'action? C'est ce que demande la norme. Et en fait, pour l'ensemble des thématiques, donc la biodiversité, l'eau, sur l'humain, c'est la même logique d'arriver à se dire ok, ben, fixez-vous une cible. Alors parfois, le texte dit ben, il y a déjà des cibles entre guillemets, réglementaires. Donc à ce compte-là, vous devez suivre la cible réglementaire. Donc, par exemple, sur l'eau, il y a la directive 4 sur l'eau qui capte déjà pas mal les choses. Donc, grosso modo, on est sur des cibles plutôt dictées par déjà du droit existant. Alors, sur d'autres cas, il n'y a pas forcément de droit existant et l'entreprise peut fixer sa cible, sans forcément dire que la cible est à la bonne hauteur de l'enjeu. Voilà. Et de là découle derrière donc, le suivi, quel indicateur suivre, quelle action mise en place, combien ça coûte. Voilà ce que demande la CSRD, en très gros sur la partie. Et après, sur la partie B, c'est finalement en quoi l'entreprise peut être impactée par le changement climatique, c'est la question de l'adaptation qu'il y a derrière. Est-ce que ça va coûter de l'argent à l'entreprise? C'est quoi les coûts associés aux risques? Il peut y avoir aussi des risques de ne plus être assurable, par exemple. Il peut y avoir des risques de perte d'activité, de perte de chiffre d'affaires. Ou à l'inverse, peut-être que vous vous dites, j'ai vu passer une terre de Serge Zaka sur l'espace pour les tomates, où l'espace va devenir inhabitable pour les tomates pendant sa période habituelle. Et par contre, la façade atlantique française va être super bien pour les tomates. Quoi. Donc peut-être que devenir planteur de tomates en Europe, est un bon plan pour l'entreprise. Donc voilà ce que va amener la CSRD à faire, à choix de se dire comment j'impacte, quel risque je suis exposé, et au contraire, quelle opportunité de faire de l'argent, entre guillemets, je peux avoir.
Ok, t'as le micro qui saute un peu des fois, je pense que c'est une connexion qui n'est pas parfaite, désolé. on a pas mal de réactions. JMC33Big5 demande pas de connexion entre les données extra-financières et les données financières. Genre c'est une compta qui est parallèle à la compta.
Alors la CSRD pour l'instant, c'est un rapport de durabilité. Le rapport de durabilité, effectivement, il s'arrête au port de la comptabilité. C'est-à-dire qu'il a déjà demandé de raconter ce que vous faites, de mettre en place les indicateurs à suivre. Donc il faut savoir, derrière, il y a la norme, 1200 points de données à checker. On ne va pas forcément répondre à tous les points de données, ça dépend des entreprises. Et après, en fait, la passerelle avec la comptabilité, là où la norme s'arrête, c'est de dire c'est quoi vos actions et c'est combien coûtent vos actions. Et en fait, c'est là où la norme s'arrête. Du coup, il manque le pas d'après. Comment on rentre dans la comptabilité? Et c'est ce sur quoi on travaille en fait avec Tiffen.
Ok. Il y a Adrien D qui a répondu, il dit pas exactement, elles doivent dire si elles en ont et sinon quand elles le feront. Et c'est la CSDDD qui va les obliger à le faire. Ils sont bien vos acronymes, hein. Ils font pas 8 lettres.
Ouais. Tu l'as l'acronyme Tiffen de la CSDD ou je le balance?
Vas-y, si tu l'as, parce que moi je l'ai pas intuitivement, mais.
Je vais tricher, c'est le devoir de vigilance. C'est la CS3D, donc la Corporate Sustainability. Ouais, je sais plus. Donc le devoir de vigilance en français, en bon français. Effectivement, le devoir de vigilance, ça va demander uniquement aux grandes entreprises. En fait, d'être responsable des impacts de leur activité et de leurs fournisseurs en chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'ils vont devoir faire le travail de s'assurer que leurs fournisseurs respectent les droits humains et respectent l'environnement.
Ok.
Diligence directive. Voilà.
Ok.
Et effectivement, c'est là cette norme-là qui sanctionne fortement les entreprises qui ne respectent pas du coup la CSRD, elle. N'implique pas de sanctions en tant que telles. Par contre, ça va potentiellement être un bon moyen en tant qu'investisseur, qu'acteur bancaire, de faire le tri dans où est-ce que je vais mettre mes billes, par exemple.
Ok. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Bonsoir Loïc qui passe par là. On est 80-90, je crois. Et Brumaire FR nous demande, qu'est-ce que ça veut dire en ligne avec l'accord de Paris? avec une réduction globale par secteur. Comment on fait rentrer ça au niveau de l'entreprise, quoi?
Ah, ben alors ça, c'est la question à 1000 euros, justement. Parce qu'il y a beaucoup de... c'est quelque chose qui circule beaucoup, de dire ben, il faut être en accord avec les accords de Paris, mais finalement, ça pose vraiment la question de qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise donc, qui est vraiment un maillon hyper micro, d'être en lien avec les accords de Paris. Mais en fait, il faut revenir à ce que ça veut dire. Alors, en l'occurrence, on pourra peut-être en reparler après, mais là, dans ce qui suggère, en tout cas dans la CSRD, c'est par exemple d'utiliser le référentiel SBTI, par exemple, donc qui est encore un acronyme. donc, c'est les Science Based Target Initiative, qui est une initiative qui cherche, alors qui a d'abord analysé des méthodologies existantes, soit dans la littérature, soit produites par des cabinets, pour voir quelles étaient les méthodes les plus robustes pour fixer des trajectoires aux entreprises. Et eux, ils en conseillent deux en particulier. Une, c'est la méthode ACA, encore. Donc, c'est en contraction absolue. Donc, en gros, c'est on prend la trajectoire du GIEC. Donc, grosso modo, pour la faire courte, c'est style moins 5% par an pour tout le monde, quel que soit son secteur, quelle que soit sa situation de départ, etc. Donc, l'idée, c'est que si tout le monde fait moins 5%, forcément, on arrive de manière... pas très efficace, mais plus certaine, à l'objectif fixé par le GIEC. Et la deuxième méthode, elle est un peu plus fine et elle cherche à faire des profils par secteur. Donc en utilisant de l'intensité carbone matière. Donc par exemple, admettons, je suis une entreprise qui fait de l'acier, je vais avoir une cible en tonnes d'acier produit qui a été calculée avant. Pour que si toutes les entreprises du secteur convergent vers cette cible-là, on atteint l'objectif de manière plus générale. Et en ayant en plus des hypothèses de croissance, etc., c'est fait avec des modélisations qui se basent sur les modélisations sectorielles de l'Agence internationale de l'énergie. Donc, qui fait des modélisations un peu comme le GIEC aussi là-dessus. Et donc, ça, c'est... par exemple, quelque chose qui est préconisé éventuellement dans la CSRD. Alors après, les entreprises peuvent utiliser d'autres méthodes, il faut qu'elles justifient aussi, elles peuvent pas faire complètement n'importe quoi, mais il faut utiliser des méthodes. Celle-là, c'est une de celles qui est le plus plébiscitée, en tout cas par les structures et les cabinets de conseil carbone.
Ok. Bipandum, il nous lance sur un autre sujet qu'il est important d'aborder, je pense. Il dit un petit topo sur les avantages et inconvénients de la valuation de la nature, car il y a deux écoles au sein de l'économie écologique. D'un côté, les pragmatiques avec Robert Costanza, qui va dans le sens de l'extrait vidéo qu'on vient de voir, donc du fait qu'il faut donner de la valeur à la nature pour la préserver. Mmh. Et de l'autre, Cliff Pash, qui estime que c'est fondamentalement une mauvaise idée. Est-ce que vous voulez vous lancer là-dedans?
Ouais, carrément. J'y vais, Mathieu, si tu veux.
Vas-y. De toute façon, on va se compléter au fur et à mesure.
Parfait. Donc, du coup, effectivement, donc l'économie écologique, donc c'est une école assez large en économie, donc qui vise à intégrer dans les analyses économiques écologique, donc qui se fait un peu en réaction à ce qui se fait en économie un peu mainstream où on ne prend pas du tout en compte les aspects environnementaux et sociaux typiquement les dommages faits à l'environnement, etc. Donc au sein de l'économie écologique, je le fais de manière un peu caricaturale, mais il y a en gros trois écoles différentes. Une école qui est très proche des analyses assez néoclassiques, des écoles un peu mainstream, qui reprennent leur méthode en y intégrant des dimensions écologiques. On a des méthodes pragmatistes, donc qui s'éloignent un petit peu plus de ces méthodes-là, mais qui considèrent encore qu'il faut conserver l'évaluation de la nature pour parler aux décideurs, donc j'y reviendrai, et la socio-économie écologique, qui est un peu plus radicale, on va dire, et qui, elle, qu'il y a un problème éthique d'évaluer la nature et qui développe d'autres méthodes qui, soit n'utilisent pas que des critères monétaires et des critères biophysiques pour évaluer, évaluation comme ça. Et en gros, le débat, c'est un petit peu de dire, ben, les pragmatistes, eux, ils disent, ben, de toute façon, les décideurs, ils ne raisonnent qu'avec l'argent. Donc, si on ne parle pas argent, on ne sera pas écouté. Donc, typiquement, ils ont fait des évaluations en disant combien coûteraient les services écosystémiques que nous rendent les écosystèmes. Donc, un service écosystémique, c'est par exemple les abeilles qui vont polliniser les champs, en gros. Et ça, si demain les abeilles disparaissent, ça nous coûte combien de mettre des gens qui viennent polliniser à la main nos cultures? Voilà. Bon, y a un débat éthique, évidemment, sur la manière de faire, puisque on part de constats où on donne une valeur, effectivement, au travail effectué par la nature qui, concrètement, en fait, enfin, le fait d'avoir un air respirable, de pouvoir avoir de l'eau potable, c'est des choses qui sont pas sur lesquelles on peut pas complètement transiger. Et donc, c'est ce que disent notamment des tenants plutôt de la socio-économie écologique, donc Cliff Splash par exemple, sur ce sujet-là. On peut avoir aussi des méthodes d'évaluation monétaire qui vont, par exemple, c'est des méthodes d'évaluation contingente. Elles vont faire des sondages. Donc, on va avoir par exemple, une rivière qui est polluée. Les habitants qui, initialement, c'est leur source d'eau dessus, on va leur dire combien vous êtes prêts à payer pour avoir de l'eau potable. Voilà. Et donc, c'est quand même. Enfin, voilà, c'est. Bon, ça se passe de commentaires, je pense, sur le problème éthique que ça pose, évidemment, et les problèmes méthodologiques qu'il y a derrière ce type d'évaluation. Mais c'est assez intéressant parce que c'est pas non plus, même si ça pose des problèmes éthiques, les pragmatiques n'ont peut-être pas complètement tort non plus, dans le sens où ça permet d'avoir des fois aussi une première oreille attentive, même si ce n'est pas forcément des méthodes qui doivent permettre non plus de juger, enfin de piloter l'action publique. Et typiquement, c'est ce qu'on essaye de voir avec. C'est là où la comptabilité est intéressante, parce qu'elle ramène la notion de coût au milieu et pas d'évaluation, on ne cherche pas à donner un absolument à la nature. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément encore trop développées en économie écologique, de s'intéresser justement à la comptabilité dans ce cadre-là, en disant, ben, on part du principe que la nature est incommensurable, donc on ne peut pas l'évaluer, on ne peut pas lui donner un prix, ce n'est pas possible. C'est juste quelque chose qu'on doit préserver. Et donc, en partant de ce prérequis-là, combien ça coûterait de devoir la préserver. Donc, en disant, ben, voilà, ma rivière, pour la dépolluer, pour qu'elle devienne potable, j'ai besoin de penser combien. Plutôt que de demander aux gens combien ils sont prêts à payer. On sait qu'on doit le payer, et plutôt, comment on s'organise pour financer cet élément-là. Donc, ça déplace un petit peu le curseur.
Ouais. Et j'ai perdu l'idée. C'est ballot, ça. non, mais ça c'est un, du coup, c'est un des points fondamentaux de justement de débat international derrière la comptabilité, c'est-à-dire que là, soit on se ramène à la question de ce que dit Tiffaine, voilà, c'est ça. C'est que le point d'accroche qu'on peut retrouver de manière un peu mainstream, donc classique en économie, c'est de la recherche de la valeur des écosystèmes. Combien ça, ce que vient d'expliquer Tiffaine. Et en fait, en faisant ça, on se pose une position anthropocentrée. C'est une vraie question derrière éthique, d'éthique environnementale, de philosophie environnement derrière. Donc, et le point, c'est est-ce qu'on cherche à préserver l'environnement uniquement pour les humains, pour notre bien-être à nous, notre confort, ou est-ce que dans l'absolu, on part du principe que les écosystèmes, les êtres vivants, chaque être vivant, chaque écosystème a le droit d'exister pour ce qu'il est. Donc ça, c'est aussi un point fondamental qu'il y a derrière, c'est qu'on n'est plus en train de chercher à mettre un prix hasardeuse sur le fait que potentiellement, si je préserve le préfleuré à côté, les abeilles de mon voisin qui fait du miel va pouvoir vendre du miel pendant encore les 10 ans à venir. Et donc, peut-être l'écosystème vaut les 100 pots de miel fois 10 ans qui va de production. Mais c'est plutôt de dire peut-être qu'il ne faudrait pas que le voisin qui tond sa pelouse tous les jours à ras fait qu'il n'y a plus de fleurs pour abuciner, ou alors qu'il utilise du Roundup accessoirement et qui du coup tue les abeilles, pour être très, très schématique. Et du coup la question c'est effectivement comment on s'organise collectivement pour préserver des écosystèmes ou des êtres vivants ou x ou y chose importante, entité importante au niveau naturel ou des êtres humains. Donc ça renvoie aussi par exemple quand on parle de la question du prix ou d'un coût, ben, finalement un peu. La question provoque, c'est quoi la valeur d'un homme, d'un être humain? Combien vaut la vie de Rodolphe Meyer qui fait des vidéos depuis 10 ans sur YouTube, par exemple? Est-ce que c'est ça le sujet?
Ça n'a pas de valeur. C'est inquantifiable.
Exactement.
Jusqu'à ce qu'on ait besoin de me sauver, là, par contre, on se posera la question.
Voilà, mais si on te sauve, en fait, c'est le coût. C'est une dépense de la société. Ouais. Donc voilà. Je sais pas, Tiffaine, tu veux rebondir ou j'enchaîne?
Non, tu peux enchaîner. Si.
Ça marche. En fait, du coup, ça ramène à un autre point fondamental, c'est-à-dire que dans les questions qu'il y a c'est que dans le cas où on va chercher à mettre un prix à la nature, on se pose pas les questions de l'existence de la nature. Du coup, on va pas chercher à la préserver. On va pas se poser la question de c'est quoi le bon état écologique d'un écosystème ou d'un être humain. Alors que si on se pose la question de l'autre côté, de se dire, eh bien, on va chercher à préserver la nature pour ce qu'elle est, et donc derrière, je vais chercher à suivre les actions nécessaires et donc les coûts associés, se pose la question en amont, eh bien, comment je garantis, sur des bases scientifiques, écologiques et politiquement négociées, que je vais respecter son bon état de santé. Et donc, on se pose la question fondamentale de comment j'atteins mon objectif écologique de respecter le bon état de santé de mon écosystème ou de la personne. Et donc, ça oblige à poser cette question-là et donc de travailler avec les sciences de l'environnement, les sciences de l'écologie dans le premier temps, pour bien définir en fait l'entité qu'on veut préserver, le climat par exemple, avec un budget carbone, un sol avec des indicateurs de biodiversité, du sol, de qualité physico-chimique. Je n'ai pas pris l'exemple le plus simple, le sol, c'est le bordel. Mais voilà, du coup, on va aller chercher les personnes qui peuvent nous dire à un endroit, sur un sujet, ben, voilà ce qu'est qu'un sol en bon état de santé. Et donc de là, de se dire, ben voilà, c'est ça mon objectif de préservation pour le sol, à tel endroit. Et donc, qu'est-ce que je mets en place pour le faire, pour y arriver? Alors que si je reste dans mon objectif de combien peut me rapporter de ne pas détruire un sol, ben, si on nous dit, ben en fait, quoi est les caractéristiques du sol en bon état de santé? Donc là, c'est du coup un autre élément fondamental, ça amène à se poser la question de comment je suis l'état de santé de chaque entité naturelle et humaine.
On peut peut-être prendre quelques réactions du chat. Goberwald nous demande, le Roundup tue les abeilles? Alors je crois pas, mais c'est un exemple de Mathieu. Faut être sympa avec les invités, on se focus là. J'ai déjà eu mal à comprendre la compta, donc ne tirons pas sur les vidéos, ça va devenir compliqué. Il y a pour la vie humaine, Jacara 2 nous dit, un prix Nobel l'a calculé. Avec la différence de salaire entre une tâche sans risque, nettoyer des vitres, et la même avec risque, nettoyer des vitres d'un gratte-ciel. Donc comme ça, on... finalement, ça donne une idée du prix, enfin, de ce que quelqu'un veut recevoir comme argent en prenant le risque de perdre sa vie, quoi. Donc ça donne une idée de la valeur qu'il attache à son existence. Okay, je suppose que c'est une manière parmi d'autres. Et JMC33Big5 nous dit, la nature n'a pas de valeur, mais il faut bien parler de coût pour la préserver. Donc ça, c'est un peu ce que tu avais parlé, je crois, Tiffany, sur les différentes écoles. Si
oui.
J'ai à peu près suivi.
Oui, c'est ça. Ben, c'est... Ouais. Vas-y.
Non, c'est tout. Si vous voulez rebondir sur les questions, je pense que c'est pas tout à fait clair, même pour moi, les différentes manières dont on peut essayer de prendre en compte l'environnement. Donc si je comprends rien, il y en a qui veulent attacher une valeur en fonction de ce que ça rend comme service, ou ce que ça peut rendre comme service dans le futur, et d'autres qui regardent le coût qu'on est prêt à payer pour réparer ou pour éviter une catastrophe. Je suis perdu.
c'est pas le coût qu'on est prêt à payer, c'est dans l'absolu, le coût qu'il faudrait dépenser, qu'il faudrait engager pour garantir le respect de santé.
Donc, dans ce cas-là, le choix politique, il est fait en amont. On dit, on veut telle qualité de l'air, ou on veut telle qualité de l'eau, ou tel état du climat, et ensuite, on calcule combien il faut payer pour avoir cet état.
Ça serait sur les propositions effectivement comptables dont on parlait. Mais après, même sur les propositions classiques d'évaluation de la nature, il y a plein de manières de le faire. Donc ça, c'est des exemples qu'on a donnés, effectivement, par exemple, sur le... par exemple, combien es-tu prêt à recevoir pour vendre ton bras, ce genre de choses aussi, ça fonctionne un peu dans les évaluations monétaires. Ça peut être aussi le coût des dommages, combien on va devoir payer, par exemple... Si demain on a une inaction climatique complète avec des problématiques légères, par exemple de canicules récurrentes, de problématiques liées à l'accès à l'eau, etc. Combien on va devoir débourser en cas d'inaction ? Ça, c'est aussi des méthodes d'évaluation. Enfin, en fait, il y a pas mal de manières de faire. Et je rebondis sur le prix Nobel. Aussi parce qu'il y a notamment un prix Nobel d'économie, donc William Nordhaus, qui lui donc est un des premiers économistes à avoir intégré le climat dans ses modélisations. Ça reste un premier travail intéressant. Et lui donc il est prix Nobel de donc 2018 et donc je il se base lui sur des analyses coûts-bénéfices. Donc en gros c'est mesurer les dommages de l'environnement, donc typiquement, admettons, en cas d'inaction, et combien ça coûterait en face mener des actions. Et donc, en fait, il voit les dommages uniquement par le prisme du PIB. Donc, en gros, un PIB qui se dégrade, ça veut dire beaucoup de dommages. Donc, ce n'est pas forcément en termes de qualité de l'air, de qualité de vie, de population qui vit correctement, ou de la nature qui vit correctement même autour. Et lui, il conclut à un climatique autour de 3 degrés, il me semble, de mémoire. Je ne sais pas si Mathieu, tu avais le chiffre plus précis en tête.
Ouais, son optimum, était à 3 degrés de réchauffement climatique.
Donc, complètement... en dehors des clous de tout ce que dit le GIEC de l'autre côté. Donc en fait, c'est typiquement les analyses des économistes qui s'intéressent en priorité, même si on intègre les analyses, on ne part pas du principe d'abord du bon état écologique, on part du bon état financier. Quel impact ça va avoir sur mon PIB. Et en plus, donc, sans rentrer dans le détail, mais il fait des comparaisons entre deux villes qui se situent aux États-Unis pour les dommages, sachant que on sait très bien que des États insulaires risquent d'avoir des problématiques bien plus élevées, que je ne parle même pas de l'Inde, où il y a déjà aujourd'hui des problématiques hyper importantes en Afrique. Enfin bref, tous les États et partout dans le monde, on n'a pas les mêmes vulnérabilités au changement climatique. Et c'est... Et des prix Nobel. C'est un prix Nobel pour ces travaux-là, justement.
Ouais, et il y a une question de Florian Huck sur est-ce que raisonner à un niveau écologique systémique constant ne pose pas un autre souci, alors qu'on aurait intérêt à augmenter les services type puits de carbone, etc. Vous voyez, le bon état écologique, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre même un état meilleur que l'état actuel ?
Alors, ouais, merci de la question, parce que du coup, c'est un autre élément... Un autre élément de débat qui est à mettre sur la table, c'est-à-dire que on revient encore sur les questions d'éthique et de philosophie environnementale, écologique. Dans quel cas de philosophie on s'inscrit ? Tiffaine, tu as la lumière sur le côté, si tu veux, je suis désolé. Donc en fait, la question, c'est on peut être dans une approche dite d'écologie relationnelle où là, l'intérêt, c'est de dire, on part du principe que chaque entité, donc un écosystème, un être humain, est en permanente interaction. Et ces interactions font que l'état de l'entité évolue dans le temps. Et donc derrière, la question de l'état de santé, le meilleur état de santé à atteindre, à préserver, va peu et peu évoluer aussi. Et donc, cette question de l'évolution va s'associer de différentes caractéristiques. Donc, si on prend le climat, par exemple, la question des puits de carbone, la question de la préservation du climat se pose par rapport à un budget carbone et un objectif net. L'objectif net, c'est-à-dire on réduit jusqu'à des émissions incompressibles et le reliquat doit être séquestré. Voilà. Donc là, derrière, le point qui peut se poser, c'est qu'on pourrait très bien imaginer, bon, a priori, c'est très compliqué, hein, mais imaginer qu'on peut augmenter les puits de carbone dans le temps, de manière considérable, à ce compte-là, on pourrait potentiellement avoir un peu plus de budget carbone en face. On peut le voir comme ça, ou à l'inverse, on peut constater que les puits de carbone se cassent la figure, et donc, on doit devoir fournir un effort de réduction encore plus important. Et c'est ça l'enjeu qu'il y a derrière, c'est que on peut avoir cette approche-là dite en écologie relationnelle, du coup on prend l'évolution de l'état de santé par rapport aux interactions entre le climat, les activités humaines et d'autres écosystèmes par ailleurs, je ne sais pas. Je prends un autre exemple caricatural que j'aime bien, une approche dite écocentrique, on peut... Là, je fais des gros traits. Hein. Je sais que certains risquent de faire des bons s'ils écoutent. Mais par exemple, la vision écocentrique, c'est de dire je cherche à préserver quelque chose dans son meilleur état de santé. Et je ne prends pas forcément en compte le fait de que ça puisse évoluer dans le temps. Donc là, je prends un exemple vraiment caricatural. On va au pôle, on peut voir que des glaciers fondent. Et donc là, l'idée, c'est de se dire « Non, je ne veux pas que le glacier fonde. » Ok, comment vous faites? Vous mettez un énorme, énorme glacier par-dessus pour que ça reste froid et qu'on refasse de la glace. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que le glacier peut disparaître, il va disparaître, et par endroits, on voit que les écologues viennent étudier l'écosystème qui apparaît. Parce qu'en fait, manque de chance, c'est comme ça, le coup est parti avec le changement climatique. On a des écosystèmes qui vont changer d'état. Donc là, on ne va plus chercher à préserver forcément l'entièreté du glacier, mais ce qui reste de sauvable du glacier, et de voir qu'est-ce qui apparaît, des reculs. Voilà. Et donc ça, c'est une question effectivement d'approche, et après, dans les approches anthropocentrées, comme on l'a vu avant, c'est souvent celle-là qui amène sur les questions de prix à la nature. Voilà, du coup, on ne se pose même pas la question de l'état de santé, on ne se pose même pas la question du bon état écologique. Voilà, si je fais à très gros traits, c'est un peu ça les enjeux qu'il y a derrière.
Parce que vous, avec les méthodes comptables à CARE que vous développez, sur ces trois courants qu'a mentionné Tiffen, vous êtes plutôt parti des pragmatiques quelque part, non?
Voilà. Alors, du coup, si on se rapporte à l'économie écologique, ce serait plutôt de la socio-économie écologique parce qu'on n'est justement pas sur de l'évaluation de la nature. Ce qu'on cherche à faire, c'est on ne cherche pas à donner un prix à la nature. On part du principe que la nature, elle est incommensurable, on ne peut pas la mesurer. Donc, par contre, on mesure le coût de l'action pour la préserver. Donc, en soi, on reste complètement dans les lignes idéologiques de la socio-économie écologique et en disant que aussi que les entités écologiques, elles ne sont pas substituables par des entités technologiques ou du capital financier ou du capital humain. Typiquement, on ne peut pas remplacer en disant c'est pas grave, ce qu'il faut maintenir c'est le service de pollinisation et on le remplace par des êtres humains ou des petits robots qui vont polliniser et c'est parfait. Non, on cherche à préserver l'abeille en tant que telle pour donner donc, et là-dessus en termes de principe, on se rapproche plutôt de ça. Et là, par rapport à ce que disait Mathieu, dans les perceptions de l'écologie qu'on peut avoir, on est plutôt sur de l'écologie relationnelle. Donc, on va se poser la question à chaque fois de manière située. À tel endroit, quelle est la relation que l'entreprise, en l'occurrence, entretient avec son environnement? Comment elle l'utilise? Quelles sont les relations préexistantes avec elle, etc. Pour pas dire qu'il ne faut absolument pas toucher à l'environnement, parce que, en fait, si on est dans des approches où on ne touche pas du tout, en fait, on ne vit pas. Enfin, et c'est considéré que l'humain ne fait pas du tout partie des écosystèmes, qui ne les influence pas, qu'on est comme si on était en dehors de la nature, en fait, quelque part. Et ce qui n'est pas le cas, en fait. On fait partie, on influence. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte dans nos analyses tout de suite. Et d'ailleurs, l'écologie, c'est la science des relations. La science de rien toucher, de mettre sous cloche, ou alors de se regarder, nous, le nombril, en disant, mais de toute façon, la nature nous rend des services.
Et il se passe quoi si vous voulez préserver un état donné et que vous vous rendez compte que le coût est astronomique? Ça peut arriver. Du coup, ça a une influence. Ça veut dire qu'en fait, ce service-là, ou si on prend en compte les glaciers là, qui sont nos glaciers de montagne qui vont disparaître de toute façon, et qu'on se rend compte que bah, pour les préserver, il faudrait mettre un énorme congélo et que le coût il est démesuré. Du coup, la conclusion comptable, c'est que ces glaciers sont foutus, quoi.
C'est exactement ça. C'est qu'en fait, on prend acte, à un moment donné, on prend acte en fait, que l'on ne peut plus préserver quelque chose qui est vu comme capital. Et du coup, en fait, on entérine la destruction, entre guillemets, la disparition de l'entité, du capital en tant que tel. Et en fait, du coup, si on ramène au niveau de l'entreprise, ça veut dire aussi une chose, c'est que on va arriver en intégration comptable d'un capital naturel, enfin deux capitaux naturels et deux capitaux sur la même sur le sur, par le fait que l'entreprise utilise, impacte ces entités. Donc, par exemple, je prends un exemple, on est une entreprise qui industrielle qui a des eaux usées. Ces eaux usées les déversent dans une rivière. Donc derrière, on va reconnaître que l'entreprise a la rivière comme capital naturel à préserver. Dit autrement, la rivière est actionnaire de l'entreprise parce qu'elle met à disposition de l'entreprise une capacité à stocker des polluants. Maintenant, l'entreprise est redevable de la rivière. Sa redevabilité, c'est de dire, OK, eh bien, en fait, la rivière, pour ton bon état de santé, elle ne peut pas absorber plus de tant de volume de polluants par mètre cube d'eau, par exemple. Voilà. C'est la question du taux absorbable. Derrière, ça va être l'Adréal, par exemple, peut le fixer. Ça peut être un écologue qui va fixer, de dire, voilà, la rivière à tel endroit, en fait, potentiellement, vous pouvez rejeter tant de polluants maximum, voire pas du tout, en fait, potentiellement. C'est que ça aura dépend vraiment des conditions. Voilà. Et donc derrière, ce qui se passe, c'est l'entreprise peut se dire, bah, ouais, OK, ben, en fait, si je veux pouvoir ne pas détruire la rivière, peut-être qu'il faut que j'installe un bassin de traitement de mes eaux usées qui a coûté 3 millions d'euros et avoir un reliquat, ou peut-être qu'il faut que j'ai zéro rejet à ce coût-là, ça va. Non, mais c'est un truc à 12 millions d'euros. Voilà. Et si derrière, il ne peut pas se le payer, ça met une vraie question sur sa capacité à exercer son métier à tel endroit, par exemple. Ça peut être un premier point. Et un deuxième point, c'est si jamais l'entreprise ben, détruit la rivière, admettons vraiment, il y a un accident elle va détruire littéralement la rivière, on pourra aller voir ce qui se passait à Lyon avec les questions des PFAS, la question des sols pollués éternellement, c'est exactement le sujet. On est dans une situation où on a une perte complète de fonctionnalité du sol et d'usage du sol par endroit au niveau de Lyon. Derrière, le point, c'est on constate la destruction du capital en tant que tel. Et donc, derrière, l'enjeu, c'est non plus une question de préservation, on peut plus préserver. C'est une question de droit, de juridique. C'est maintenant comment l'entreprise est redevable juridiquement pour la destruction d'un capital.
Ok.
Et là, on rentre dans des points justement où en fait. La comptabilité est peut-être est liée au droit aussi derrière. Je sais pas si je vais compléter Tiffen ou je continue sur le sujet, parce que moi je peux y aller là.
Mais non, mais c'est ce que tu disais. En fait, la comptabilité, ça permet aussi les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions et montrer les bonnes politiques publiques derrière. C'est que à partir du moment où on a du coût nécessaire pour l'entreprise dégrade, qu'on a l'information que l'entreprise, potentiellement, elle n'est pas du tout en capacité de le rembourser. Derrière, ça permet de mettre en place tout un arsenal législatif, que ce soit pour aider à travers des subventions en disant, ben voilà, on voit que c'est qu'il y a un besoin là de financement sur tel type d'entreprise qui ont des difficultés. Qui ont des difficultés à atteindre leur budget carbone parce qu'il y a des transformations importantes, par exemple, de leur activité, ou alors de mettre aussi en place une fiscalité spécifique, de mettre en place des sanctions aussi, puisque c'est la comptabilité, par exemple, qui donne la notion de solvabilité. Donc, en gros, par exemple, aujourd'hui, même en compta, enfin, en compta totalement normal, une entreprise qui n'est pas en capacité de rembourser ses dettes parce qu'elle n'a pas les disponibilités suffisantes, ben, en redressement judiciaire, on essaye de l'aider à assainir ses dettes et si ça ne fonctionne pas, elle est liquidée. Donc, cette notion-là, elle existe déjà là-dessus. Et donc, en transformant la règle du jeu là-dessus, en y intégrant des données sur des coûts de préservation comme ça, ça permet de mettre en place, de construire un peu par-dessus.
Donc, ça permettrait que les entreprises les plus dangereuses d'un point de vue écologique, ça se reflète dans leur comptabilité et qu'on le liquide.
Ça veut dire que effectivement le tant qu'on a un capital, c'est-à-dire le capital qui est la dette en fait de l'entreprise envers les écosystèmes et les humains, tant que la dette existe, c'est-à-dire qu'il y a une capacité à pouvoir préserver, à pouvoir restaurer. C'est du moment en fait où on commence à dire en fait là ce que vous faites fait qu'on ne peut plus préserver, vous allez détruire, et à ce moment-là en fait la question, la dette part en illimité. On part en insolvabilité, c'est ce que dit Tiffen. Et là, pour faire un petit clin d'œil, il y a une émission sur France Culture, j'ai peut-être cherché le lien là, pour vous l'envoyer, qui parle de Total, justement, et qui est avec Yamina Saeb, donc Yamina Saeb, qui est autrice au rapport du GIEC, qui justement aborde la question de la comptabilité en fin de l'interview, en disant, on posait la question, il me semble, est-ce qu'il ne faudrait pas nationaliser Total ? Et en fait, sa réponse, c'est de dire, non, parce que si on nationalise Total, le risque, c'est qu'on peut collectivement avoir à prendre en charge l'ensemble des dégradations et des réparations à faire, alors qu'à l'inverse, si on change la comptabilité pour justement faire intégrer la notion de budget carbone à respecter, et donc de mettre en perspective le risque de faillite climatique, en fait, on pourrait à ce compte-là mettre astreinte Total à respecter un plan d'action, un peu comme une entreprise en redressement économique quand elle est en situation critique sur le plan économique.
Ok. Voilà. Et 7-6-X1 nous demande comment on compte l'évolution de la météo due au changement climatique, par exemple. Plus globalement, les impacts du changement climatique. En fait, vous les comptez par une comptabilité des émissions, un bilan carbone, enfin des émissions de carbone et d'une réduction qu'ils n'arrivent pas à faire. Je sais pas exactement.
Là, pour le coup, la question des impacts du changement climatique sur l'entreprise, en fait, il faut voir qu'est-ce qui est impacté. Ce sont les infrastructures de l'entreprise qui sont impactées potentiellement. Donc, okay. Ce qu'il y a derrière, c'est la capacité à vendre des biens et services, et donc à rapporter de l'argent. Là, c'est la capacité à préserver même son capital financier, en fait. Okay. Donc, du coup, quand l'entreprise se dit, en fait... Pour rapport au climat, il y a deux pieds. Il y a le pied adaptation et le pied atténuation. L'atténuation, donc les réductions des émissions de gaz à effet de serre, on rentre dans la question de capital naturel à préserver. On cherche à préserver le climat. On respecte un budget carbone, on se décarbone. Derrière, le côté adaptation, c'est comment je cherche à préserver mon entreprise pour qu'elle existe encore demain. En soi, quand je cherche à préserver ma capacité à dégager de l'argent, et donc à pouvoir continuer à fonctionner, donc à pouvoir rembourser mon capital financier. C'est ça qui est en jeu derrière l'adaptation, c'est la préservation du capital financier de l'entreprise. Et ce qui fait qu'un des gros risques aujourd'hui, c'est pour ça que les assureurs en fait, payent des spécialistes pour mapper le monde entier, pour comprendre quels sont les différents risques climatiques à l'échelle de 10 mètres carrés ou 10 km² ou 100 km². C'est pour se dire en fait, quelle zone est encore assurable demain, ou l'est de moins en moins. Et ce qui fait qu'en fait, effectivement, pour l'entreprise, ça va être devenir existentiel. Et pour son existence même, en fait, à pouvoir continuer à opérer, de prendre en compte que, au-delà de réduire ses émissions, on va devoir s'y s'adapter ou déménager ou voilà. Mais du coup, la question, c'est vraiment dans ce cas-là, c'est comment je cherche en tant qu'entreprise à préserver mon capital financier en m'adaptant aux conditions du climat qui évoluent.
Et du coup, avec cette action des assureurs, est-ce que ça fait pas déjà rentrer un peu les dommages environnementaux et les risques dans la comptabilité classique ? Parce qu'on les paye les assurances, non ?
Alors, ouais. Alors du coup, tu intègres par l'assurance le fait que tu puisses, enfin, que tu aies encore une capacité de pouvoir, enfin, t'as un risque limité. Donc, c'est pas non plus la reconnaissance, en fait, tu reconnais le fait que tu es exposé à un risque, mais que derrière, tu es assuré parce que finalement, le risque n'est pas encore si élevé que ça. Si tu es trop élevé, l'assurance te dirait non, j'arrête de t'assurer. Là, par exemple, moi qui suis dans le Jura, un sol plutôt argileux, là en ce moment, il est tellement plu que j'ai discuté avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Il disait, ben, là, mon assurance a arrêté de m'assurer. Parce que ça fait 3 fois en moins de 6 mois que je suis inondé par le fond. Donc là, en un sens, l'assurance indique le fait qu'on est en relation avec l'environnement, mais plus sur un souci de est-ce que je peux encore habiter là ou est-ce que je peux encore travailler ici, quoi.
Ok.
Je sais pas si Fenn, si tu veux dire un mot.
Non, c'était assez clair, mais effectivement, il y a déjà des choses de toute façon qui se retrouvent effectivement dans la comptabilité là-dessus. Si le prix des assurances monte, c'est typiquement un compte qui est directement dû à l'adaptation ou à un changement climatique qui induit des coûts supplémentaires pour les entreprises. Mais après, ce coût des assurances, il calcule pas par contre combien l'entreprise doit dépenser pour redevenir soutenable, par exemple. Ça prend pas tout en compte. Ça prend une partie en compte, mais comme si, en fait, typiquement par exemple, si demain mes principaux fournisseurs se mettent à être hyper soutenables et augmentent leur prix parce que ils relocalisent toute leur production en produisant le mieux possible, etc. Mécaniquement, il y a certainement des coûts qui vont augmenter, le prix qui va augmenter, et ça va se retrouver dans ma compta aussi. Donc il y a des choses qui peuvent se voir déjà comme ça aussi.
Ok.
Et en fait, par rapport à ça, il y a aussi un point important à distinguer, c'est que la question de faire entrer en comptabilité l'existence d'écosystèmes ou d'êtres humains, c'est faire prendre conscience de leur existence en tant que telle. C'est-à-dire que là, on va vraiment se poser la question de, pour chaque acteur, qu'est-ce que j'impacte, donc qu'est-ce que je dois préserver. Et ça, c'est le. Si tout le monde fait ça demain, en fait, on résout la problématique de la dégradation, intégrale de la nature et des écosystèmes. De l'autre côté, en fait, la question de la hausse, on peut du coup, derrière, ça, ce que dit Tiffen, ça a une répercussion sur la structure des coûts, en fait, de l'activité. C'est-à-dire que potentiellement, on peut avoir des choix de production qui génèrent beaucoup de pollution, qui du coup, entrer beaucoup à ne pas détruire les écosystèmes derrière, ou inversement, on peut avoir des modèles d'affaires où on va générer peu de pollution, donc avoir des coûts de production potentiellement plus faibles et des prix de vente qui peuvent être plus faibles. Inversement, on est dans des régions où on est fortement exposé à des risques climatiques, environnementaux, du coup, je vais avoir des coûts d'adaptation à l'endroit où je suis, ou même mes fournisseurs pour avoir des coûts d'adaptation importants, et donc ça se reflétait dans mes achats, et donc ça, in fine, se reflétait aussi dans mon prix de vente. Ce qui fait que le prix de vente, en fait, inclut à la fois la question de comment chez moi et chez mes fournisseurs, les acteurs prennent en compte les besoins de préservation des écosystèmes qu'ils impactent directement, et en même temps, comment ils prennent en compte les questions d'adaptation de leur activité à l'environnement qu'ils entourent et au dérèglement climatique.
Et quand tu dis que ça réglerait tout d'intégrer ça, c'est en supposant qu'on arrive à le faire correctement. Et donc, en supposant
voilà,
que c'est faisable correctement, en plus. De...
c'est ça. En fait, le point qu'il y a derrière ça, c'est plus la question aussi de la transparence de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que là, sur cette chaîne-là, beaucoup de gens sont usuels du biais de serre. Et typiquement, le scope 3, on sait que c'est un énorme fourre-tout avec plein de double comptage, et c'est pas forcément simple de s'y retrouver dedans à chaque fois. Et en fait, la question, si tout le monde met en place la question de l'intégration de la préservation du capital climatique, c'est-à-dire que tout acteur va devoir faire proprement son scope 1. Et derrière, en fait, en cascade, ça répercute sur toute la chaîne de valeur une information transparente sur quel est mon budget carbone à respecter, quelles sont mes émissions directes, quelle action je mets en place pour réduire mes émissions, combien ça me coûte, et donc ça se fait dans mon prix de vente. Et en fait, mécaniquement, par construction, en fait, on rend transparent la chaîne de valeur, sans double comptage. Et ça, c'est par exemple un élément, c'est un des points justement de bascule, si on change la comptabilité dans ce sens-là, qui peut aider à agrandir la transparence. On ne va pas forcément demander à tout le monde de calculer son scope 3 partout, mais on pourra information que tout le monde aura produit chez soi comme il faut dans sa petite brique.
Ok, on a eu coup sur coup 3 questions intéressantes là. By Pandum nous dit « Je vois mieux le potentiel de transformation du capitalisme de la compta écologique. » Mais plus sérieusement, qui soutient ce genre de méthode? Est-ce que ça ne ferait pas des quatre fers en haut, quitte à détourner les approches pour que ça ne contraigne pas?
Ouais.
Est-ce que vous avez des alliés pour pousser ça?
Alors,
le Rassemblement National.
Évidemment. Son porteur à fond.
Tu prends le point?
Non, vas-y.
D'accord. Alors, moi, je peux vous renvoyer. Alors, pareil, c'est un autre point, faut que je me les note. Vous pouvez aller voir sur l'Assemblée nationale, il y a eu la commission de développement durable qui a auditionné Alexandre Rambaud, qui est du coup le co-directeur de la chaire en comptabilité écologique, avec Hervé Bégaud. Hervé Bégaud, qui était en fait mon ancien employeur, qui est décédé récemment d'un cancer, qui était expert comptable, politique pour ce sujet, donc il a été élu à l'ordre d'expert comptable, il était vice-président de l'ordre. Et en fait, ils ont été auditionnés à l'Assemblée nationale il y a un an. De cela, et du coup, ce qui est intéressant, on a pu avoir l'ensemble des questions des différents parties. Donc, dans une commission comme ça, on va avoir 2 heures de temps d'audition. On va avoir un premier temps de présentation, un premier temps ensuite de questions des parties, et après des questions des personnes dans les parties. Et donc là, ce qui était intéressant dans les questions posées, c'est que finalement, on retrouvait des points à la fois d'intérêt de LFI à horizon. C'est-à-dire qu'on peut, pour le coup, en fait, avoir sur un scope assez large, de la gauche à la droite, sauf le RN. La faute très claire, c'est que pour le coup, la personne du RN était vraiment en rejet complet du sujet. Du coup, on peut avoir des points de consensus sur le plan politique. Et en fait, ça, c'est... Ah, vas-y, Tiffane.
Non, j'allais faire une blague. J'allais dire, s'ils cherchent un programme de coalition à mener pour l'année prochaine, ça peut être une idée. Mais...
Voilà. Après c'est clair que dans l'ensemble, entre l'ensemble du paquet méthodologique, tout ne sera pas accepté à droite, et ça c'est clair. Mais en tout cas, il y a déjà des points de consensus assez fondamentaux, et en fait, quand on parle par exemple avec une personne, un chef d'entreprise ou autre, la question, quand on est sur les questions de préservation, on est sur des choses de bon sens, ça leur parle aussi. Et ce qui fait qu'on peut avoir vraiment réussi à parler avec un large spectre de population, de scope politique, parce qu'on peut aller toucher aussi dans l'aspect rationnel. Typiquement, en rationnel, parler de l'aspect d'un langage qui est compris, qui est un des sujets de préservation, ça parle aussi des fois. Et là, on sort de la posture politique. Voilà. Mais après, c'est sûr que si on peut vous présenter le sujet de manière ultra engagée version enseignement de la Terre, là c'est sûr, vous allez faire fuir toute la droite.
Ok, après si vous avez trouvé un truc consensuel politiquement, il faut se proposer comme Premier ministre, là c'est bon. L'X18 non. Nous dit, vous pouvez nous parler d'un exemple concret du déploiement opérationnel d'une compta écologique chez l'un de vos clients, t'as le droit de faire ça?
On peut en parler, ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on peut en parler parce que déjà il y a des vidéos en ligne où j'en parle déjà. Donc il y a une intervention à Sciences Po Paris sur la chaîne des alumni de Sciences Po Paris.
Tu m'enverras un peu tous les trucs auxquels tu fais référence, je pourrais les mettre en source.
Ouais. Si je les note au fur et à mesure. Je vais les noter au fur et à mesure. Ouais. Donc tout ça pour dire que en fait ce qui est intéressant, c'est que au début. Les premières expérimentations, en fait, nos clients n'étaient pas forcément très aptes à communiquer, bizarrement, parce que ils n'avaient pas forcément compris dans quoi ils mettaient les pieds. Et donc, du coup, ils prenaient un peu des baffes, des grosses baffes. Ça met en stress test l'entreprise, hein, typiquement, tu peux casser les modèles d'affaires. Et après, en fait, plus on avance, on a une maturité qui a monté dans les nouvelles chefs d'entreprise que je rencontre. Où là, ils commencent à avoir compris qu'il y a un vrai sujet de pilotage de la transition. Donc derrière, c'est vraiment de se dire, ok, c'est faire un état des lieux, on se met à nu. À quoi ressemble ma comptabilité si je prends en compte tous mes impacts sur l'environnement et les humains? Alors déjà, il y a un premier truc qui se passe, c'est que souvent on se rend compte qu'on ne mesure pas tout ce qu'il faut, donc déjà pour comprendre vers où aller, donc, c'est un premier point, et tout dans la quête à combler. D'ailleurs, j'aime bien citer en général, il y a un papier de recherche en 2017 qui était sorti... je mettrai la référence, mais qui en gros avait étudié 40 000 rapports RSE et 9 000 entreprises, et sur 40 000 rapports RSE étudiés, seulement Ah mince, c'était quoi la stat déjà? C'était ridicule. C'était seulement... sur les 40 000 rapports. Bon bref, c'était ridiculement bas, très peu cité les limites planétaires en gros. Et sur 9 000 entreprises, seulement 0,1% étaient des objectifs à atteindre sur aux limites planétaires. En gros, 30 000 entreprises. En fait, on a des rapports SE pléthoriques, qui font des centaines de pages, plein d'indicateurs dans tous les sens, on se rend compte qu'on ne mesure pas les bonnes choses. Ça veut dire ça. Donc voilà, donc ça pour dire que, pour arriver à la question, j'ai raté de tout autour du pot, je peux vous citer un exemple d'une entreprise que j'accompagne à La Réunion, qui est une entreprise publique, qui a, elle, pour mission la restauration des écosystèmes de l'île, l'entretien des parcs et jardins, la réinsertion par l'emploi. Donc typiquement, là c'est un peu le bon élève de la classe, mais c'était de dire, voilà, nous on agit pour entre guillemets restaurer, préserver les capitaux du territoire. En même temps, on veut le faire aussi nous en s'assurant qu'on préserve aussi nos capitaux à nous. Et derrière, se pose la question, comment ils font les choses? Donc quelle est l'émission de gaz à effet de serre associée à leur pratique? Parce que typiquement à La Réunion, je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble la topographie de l'île, c'est quand même très montagneux, c'est abrupt. Et du coup, voilà, restaurer un écosystème forestier, c'est des camions, des gens avec des tronçonneuses, des fois un hélicoptère en fait, pour aller replanter. Donc, émission de gaz à effet de serre. Donc, derrière, la question de budget carbone à tenir et de se dire comment moi-même je contribue à respecter le budget carbone en même temps restaurant des écosystèmes. Derrière, il y a des enjeux aussi de réinsertion par l'emploi. Donc, là, il y a une question en fait en soi comment je contribue à prendre en charge une dette collectif de faillite à mettre des gens dans l'emploi de longue date et en même temps de faire en sorte que ces personnes, les personnes qui vont les accompagner sont aussi en bonne condition de travail. Et typiquement, ce qui était ressorti, j'ai travaillé avec un spécialiste aussi sur les questions de santé au travail, qui permet de faire toute une enquête de terrain sur les risques psychosociaux et de montrer en fait derrière que des personnes qui étaient en manque de compétences pour accompagner ces publics-là. Donc, stress au travail, aussi des problématiques d'équipement de protection individuelle, donc de pays suffisants, et donc il y a besoin d'un stock tampon complémentaire. Donc ça permet de faire ressortir qu'au final, là, derrière, la question de la préservation, c'était le coût des formations des personnes, le coût du stock tampon à créer, donc ça a créé du coup un petit bout de bâtiment, des équipements à acheter, et on avait sur quelque chose de chiffré à quelque chose comme 300 000 euros. Et donc voilà, et là, en fait, derrière, ça a aussi permis aux acteurs d'entreprise de négocier avec leurs actionnaires, qui sont le territoire de La Réunion, en fait, ce stock tampon, les formations nécessaires. Ça a été mis en place dans la foulée. Donc ça, c'est un exemple d'illustration. Et si je reviens sur l'aspect climatique, là, c'est un point particulier, et peut-être que ça peut lancer une série de questions et de débats. C'est que là, on se trouve avec un acteur qui a pour objectif de préserver des capitaux, de la biodiversité, des écosystèmes forestiers, insérer des gens par l'emploi. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que si on applique une trajectoire SBTI de moins 5%, moins 6% par an, de manière un peu brutale, bien en fait, ils sont incapables de suivre le rythme. Parce que à La Réunion, si on veut électrifier une flotte de voitures, par exemple, il faut savoir qu'électricité est au charbon. Donc c'est pas forcément, le gain n'est pas forcément aussi évident. Et donc ça veut dire que pour décarboner la mobilité, c'est pas que la voiture électrique, c'est du panneau solaire, c'est de la batterie. Et on ne parle pas des mêmes coûts, des bornes de recharge, etc. etc. Ouais. Et donc, ça amène un sujet aussi avant de se dire comment, des fois, pour des cas particuliers, on peut définir un budget carbone adapté. Donc là, on parle d'un budget carbone dit conséquentialiste et non pas attributionniste. Et là, derrière, ça amène à se dire aussi, là, on a un territoire qui est actionnaire d'entreprise, et ce territoire-là, il a la main sur un budget carbone du territoire. Donc, potentiellement, il peut arbitrer ses budgets carbone en fonction de ce qui paraît pertinent à faire. Et parce que derrière, en fait, c'est au territoire de se décarboner, d'arriver à son net zéro en 2050. Et du coup, est-ce qu'il alloue un budget carbone X à telle entreprise et Y à une autre? Et qu'à la fin, la somme des deux fait qu'on est au bon endroit.
La question, ce serait aussi, est-ce qu'ils peuvent réduire leurs émissions de 5% par an si les autres entreprises de l'île, et notamment la production d'électricité, se décarbonent, quoi?
Exactement. Ça peut aussi être ça.
Je t'ai interrompu, pardon. Tu voulais finir, non?
Non, je pense que je suis un peu allé au bout. Et après, je sais que derrière, sur ce sujet-là, Avec Tiffaine, on s'est bien creusé les méninges. Donc, je sais qu'elle elle en a sous le pied pour rebondir.
Tu veux ajouter quelque chose?
Je prends la suite sur ce que j'ai fait. effectivement, sur ce volet un peu terrible. Donc on a pas mal parlé avec Mathieu sur le cas dont il vient de parler et sur les cas que j'avais aussi dans les expérimentations, parce que du coup, mais je l'ai pas précisé au départ, du coup je suis en thèse CIFRE, donc en gros c'est des partenariats entreprises. Je suis employée par un cabinet d'expertise comptable pour faire ma thèse et je suis en moitié à l'université. Et donc on a essayé de trouver des expérimentations, et la particularité de ce cabinet, donc ça s'appelle ODIAS, c'est qu'il est spécialisé dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc en gros, moi j'avais que dans les possibilités d'expérimentation sur les clients, j'avais que des gens qui sont déjà plutôt ultra engagés sur le plan climatique, etc. Donc c'est vraiment poser la question de comment on définit des budgets carbone, justement, comment on traite de la problématique climat avec des structures dont la conséquence de l'activité est plutôt positive sur le territoire. Donc typiquement, on a travaillé avec, par exemple, Cities Occitanie, donc qui est une société d'autopartage. Donc l'autopartage, c'est en gros l'idée de la structure qui est en coopérative, c'est de dire on abandonne sa voiture personnelle et on partage un véhicule entre plein d'autres personnes qui font de l'autopartage. Et comme ça, ça réduit les coûts d'entretien des véhicules, de l'achat, etc. Et on ne paye que l'utilisation du véhicule. Donc finalement, quand on met tout bout à bout, l'assurance plus, etc., c'est moins cher. Et en fait, ça fait surtout revoir qu'on a autour de la voiture, puisque quand on a sa voiture personnelle, c'est beaucoup plus facile de se dire au moindre trajet, de se dire je prends ma voiture et c'est plus simple pour aller faire les courses, c'est plus simple pour aller dîner chez mes parents le week-end. Là, en l'occurrence, comme il faut réserver la voiture, la tendance, et c'est l'ADEME qui le dit, qui a fait une étude sur l'ensemble des personnes qui sont en autopartage en France, ça a tendance à dire l'utilisation de la voiture. Donc ça réduit à la fois le nombre de voitures en circulation, donc les émissions liées à la production, mais aussi liées à l'utilisation, puisque c'est des personnes qui, à partir du moment où elles partagent, vont se déplacer en train beaucoup plus souvent, ou à vélo, ou à pied, enfin vont utiliser plus de méthodes de mobilité douce. Et donc là, la question, c'était vraiment comment on fait là-dessus pour traiter d'une problématique carbone sur des entreprises comme ça. Et donc, c'est là où on s'est effectivement comment sur le territoire, quel impact ça pourrait avoir, essayer de voir des scénarios, si l'entreprise n'existait pas, qu'est-ce que ça donnerait. Et donc d'essayer de remettre ça aussi dans des problématiques de discussion avec d'autres acteurs du territoire sur des thématiques de transport, par exemple. Donc ça, c'était un peu très rapidement, mais c'était un peu l'expérimentation une des expérimentations que j'ai menées dans le cadre de la thèse sur ça.
Bah, et puis Andou me demande, j'imagine que vous avez principalement des entreprises qui sont convaincues, quid des autres, et comment se passe le pilotage vis-à-vis de ces deux catégories, c'est-à-dire une fois le constat a été établi. Donc toi, justement, tu n'avais pas les deux catégories, tu avais surtout des entreprises engagées, ouais, parce que tu as un cabinet qui gère ça.
Exactement. Mais après, il n'y a pas que... Alors, on en a pas mal qui viennent... Alors moi, mon expérience, effectivement, c'est plutôt des entreprises qui étaient déjà convaincues, ce qui n'est pas forcément plus facile, parce que il y a un peu un a priori aussi chez ces structures-là. La comptabilité écologique, ça doit me permettre de montrer ce que je fais bien. Donc, on ne se repose pas la question de comment mon activité est réellement impactante ou non. Parce que des fois, on va avoir des structures qui misent tout, par exemple, sur plutôt... Et où on va avoir des voyages en avion qui explosent parce qu'on met en contact... l'objectif, c'est de faire du lien social et d'aller de se rendre dans plein de pays différents, d'aller dans plein de conférences, etc. Et là, du coup, l'impact écologique, il est quand même à re-questionner, même si l'impact social est intéressant par ailleurs. Et en fait, quand c'est tout de suite, ah oui, mais moi, en fait, déjà qu'on a des problèmes de souvent dans l'ESS, pas toutes les entreprises de l'ESS, bien évidemment, ça, enfin, voilà, je caricature de manière générale, mais on peut avoir, sur des associations, on peut avoir moins de moyens, ça peut être des fois plus compliqué de faire comprendre à des collectivités l'intérêt de la structure. Et disait, ben, si on arrive avec une comptabilité où on a des dettes écologiques, ben, c'est super compliqué de discuter avec nos financeurs parce qu'ils ne connaissent pas le modèle. Donc, nous, on comprend bien l'intérêt et on est hyper à fond là-dessus. Et nous, il faut qu'on nous aide aussi à parler avec les publics, les banques, etc. Comment ça peut nous aider. Donc, il y a quand même aussi ce travail-là qui était à faire et qui n'est pas inintéressant non plus avec ces structures. Et après, dans d'autres expérimentations que je n'ai pas forcément menées, il y a aussi des structures qui ne sont pas forcément ultra convaincues de base. Et c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure. C'est qu'il y a aussi des entreprises au départ, quand elles sont arrivées, qui avaient certainement aussi ce préconçu-là, qui n'est pas forcément uniquement dans l'ESS, hein, que la comptabilité écologique, ça permet de montrer ce qu'on fait de bien, donc un peu sur un esprit un peu greenwashing potentiellement. Et en fait, à partir du moment où on voit comment ça fonctionne, ben, on n'a plus envie de communiquer dessus. Et donc là, c'est un peu... Je ne sais pas si tu veux compléter, Mathieu, peut-être que toi, tu as plus travaillé avec des structures classiques.
Ouais, bah en fait, j'ai eu tous les cas de figure, enfin, beaucoup de cas de figure en tout cas, ça serait présomptueux, mais beaucoup de cas de figure. Donc il y a eu le cas, comme tu décris, effectivement, dans l'entreprise, qui se dit, voilà, je fais plein de choses en RSE, donc je vais être bon, et en fait, je vais valoriser ce que je fais de bien. Donc ce que je fais de bien, ça va jusqu'à dire, voilà, je donne de l'argent à l'association de quartier, ce qui en soi est bien, mais en fait, c'est pas le cœur du sujet, quoi. C'est le cœur de leur sujet, c'est de dire, bah, en fait, j'ai une activité d'entretien... site industriel et que derrière en fait je repars avec plein de pollution de déchets à gérer, entre autres des peintures, donc si mes collaborateurs déversent mes déchets collectés dans les égouts ou cours d'eau, bah, derrière on va polluer les sols autour et les cours d'eau, quoi. Tout ça pour dire que c'est, du coup, ça permet aussi déjà de faire le tri dans qu'est-ce qui est vraiment capital, qu'est-ce qui rentre à piloter en comptabilité, de ce qui est plus de la philanthropie. Donc, c'est ça qui peut se faire. Ça remet un peu l'église au centre du village, j'ai envie de dire. On peut avoir des cas où, justement, moi, j'ai eu des premiers échanges, des fois un peu musclés, parce qu'on mettait vraiment en confrontation, en fait, les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise avec un budget carbone. Et donc, l'entreprise se dit, bah voilà, moi, je mets en place quelque chose qui permet, a priori, de faire mieux que les autres. D'accord, vous faites peut-être mieux que les autres, néanmoins. Comme tout le monde, vous avez aussi une trajectoire à suivre en termes de gaz à effet de serre. Et c'est une réalité physique. Là, typiquement, j'ai un souvenir d'un échange avec un chef d'entreprise et son directeur financier où en fait, à la fin de la réunion, je le voyais devenir... Enfin, s'énerver et devenir tout rouge, entre guillemets. Puis on s'est arrêté là. Ça s'est décanté. Et puis la réunion d'après, il me dit, t'as raison, Mathieu, quoi. Je vais à un moment donné... voilà, c'est aussi la question. Voilà, je vais vous faire son éternel courbe du deuil, hein, mais c'est un peu l'aspect bon, bah voilà, acceptation, faut digérer le truc des fois, quoi. Et donc, une fois qu'on a fait ça, derrière, ce qui se passe, c'est comment je bouge, qu'est-ce que je fais, quoi, qu'est-ce que j'en fais de ce truc-là, quoi. Et voilà, et donc là, de cas de figure, soit c'est du one shot, soit au contraire, et moi, c'est là où je vois que, entre guillemets, on s'améliore, c'est que. Des clients qui re-signent. Même après, et on rentre dans les questions, en fait, on va au-delà de la comptabilité. Parce que moi, pour le coup, j'ai du contrôle de gestion. L'intérêt du contrôle de gestion, c'est comment on pilote les choses. Et donc, en fait, l'action du pilotage, c'est de dire, ben, à 3-5 ans, c'est quoi mon business plan. Du coup, si on met en regard le budget carbone qui va décroître dans le temps, donc c'est une contrainte à prendre en compte en comptabilité. Donc derrière, c'est quoi mes marges de manœuvre? Du coup, ça pose à se dire, bah, c'est comment je conçois mon activité demain, dans les 5 ans à venir, pour continuer à exister et en même temps respecter mon budget carbone. Et en même temps, bien payer mes collaborateurs, faire en sorte qu'ils soient en bonne santé, qu'ils aient des compétences préservées. Essentiellement, je ne pollue pas les sols, etc. Et du coup, là, on arrive sur des niveaux de réflexion. Pense à un business plan qui fait que je prends en compte des paramètres nouveaux, qui sont des contraintes, c'est clair, qui peuvent être des contraintes, et qui, du coup, amènent aussi à vraiment penser ce qu'on appelle la transition. Entre guillemets. Et là, derrière, les enjeux qui vont ressortir, et c'est là aussi où moi, j'ai d'autres gens qui viennent vers moi en disant, voilà, moi, en fait, je veux parler à des investisseurs. L'investisseur, lui, ce qu'il va rechercher, c'est un taux de retour sur investissement. à court terme, assez fort. Et ben en fait, à un moment donné, vous aurez beau retourner les actions dans tous les sens, souvent, vous n'allez pas avoir un taux d'investissement aussi fort que prévu que ce que vous avez sans prendre en compte. Et c'est normal, parce qu'en fait, on va intégrer, prendre en compte qu'il y aura des redevabilités, des coûts potentiellement nouveaux à prendre. Donc ça, forcément, ça peut avoir un impact sur la rentabilité. Maintenant, derrière, la question, c'est est-ce que c'est un impact qui... Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait rester acceptable ou pas? Donc il y a une vraie question aussi d'éducation, de ça va être quoi de repenser le retour sur investissement pour des investisseurs. Peut-être aussi sur le pas de temps. On se rend compte des fois, si on allonge le pas de temps sur retour investissement, eh bien, on peut avoir des rentabilités assez intéressantes en faisant des choses intelligentes. Mais c'est la question de qui va piano, piano, quoi, des fois, qui peut partir. Et là, c'est un vrai enjeu d'éducation, d'éducation à faire au niveau des financiers. Si je prends un autre cas de figure, on peut avoir un cas où, où par exemple, j'ai un cas comme ça, une entreprise. Bien. Et sauf que mais, j'arrive pas à montrer à mes partenaires financiers, mes bancaires, que je préserve a priori les sols, les écosystèmes forestiers. Et donc, j'ai besoin d'une comptabilité pour montrer en fait, que j'engage des dépenses. Ce qui fait que là, c'est tout un travail sur dire, ok, bah voilà, concrètement, qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, qui suit l'état de santé de l'écosystème forestier, en termes d'écologie, de biodiversité, d'état des sols, etc. Donc du coup, là, il se paye, pour le coup, d'énormes dépenses de mesures d'état. On se dit, ok, bah en fait, c'est quoi l'état des sols de ma forêt, c'est quoi, comment je fais du gardiennage aussi, pour être sûr que je n'ai pas des coupes illégales, que j'ai pas d'autres problématiques, par exemple, même intervention des bûcherons. C'est-à-dire qu'il y a la question de comment je ne vais pas venir tasser les sols de ma forêt avec mes tracteurs en dehors des voies de cloisonnement, par exemple, ce genre de choses. Donc il y a tout ça, donc ça a des coûts en fait assez importants. Et donc là, ça permet de mettre ça en lumière. Et ce qui s'est passé, que du coup, là, l'entreprise, elle ne coche pas toutes les bonnes cases partout, mais elle montre que sur beaucoup de sujets, elle a mis en place des plans d'action avec des mesures d'état, même pour le climat. Elle a une stratégie climatique alignée sur un degré 5, donc pour qu'on dise du niveau 5, mais c'est-à-dire que moins 6% par an, et qui est chiffré, et du coup, c'est qui est argumenté. Donc, ça, derrière, elle a envoyé à la Banque de France. La Banque de France a amélioré la notation de l'entreprise. C'est-à-dire que la banque. Et derrière, en fait, il y a l'entreprise avec des taux préférentiels, des taux réduits auprès de ses acteurs bancaires. Donc là, on peut rentrer dans des outils, mécanismes dans le monde réel, en fait, des répercussions dans le monde réel d'un truc qui est volontaire. Et par rapport à ça, c'est là ce qui est intéressant. Voilà, ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on pourrait commencer à penser à entre guillemets, une forme de prime aux personnes qui font bien les choses.
Ok. Et je ne sais pas si c'est... Loïc demande, qu'est-ce que vous pensez des dividendes climat? Genre Decathlon qui émet 1 million de ses dividendes climat grâce aux émissions évitées de la vente de vélos et trottinettes. Je ne sais pas si vous connaissez ce sujet. Si le lien est fort avec ce que vous faites. ça souffle, j'ai l'impression.
Merci Loïc.
Alors, je ne l'ai pas creusé à fond. Du coup, j'ai pas envie de. Je sais que ça fait un moment que je me mets dans ma to-do de regarder vraiment en profondeur ce que ça donne, ces mécanismes-là, pour pouvoir en parler correctement. Après, vraisemblablement, c'est quand même sur le principe, si j'ai bien compris le principe de base, c'est de distribuer des émissions évitées des entreprises. Donc typiquement par exemple j'ai vendu des trottinettes, les gens se déplaçaient en voiture, s'ils n'avaient pas la trottinette, faut voir comment on calcule ça, et ça me permet de distribuer des dividendes supplémentaires. Donc globalement, ça, je pense, l'idée générale c'est d'inciter les investisseurs à aller investir dans des boîtes qui propose ce genre de solution, mais je ne suis pas sûre que ça flèche correctement l'argent, ou que ça part un peu sur ces idées là, qu'il faut avoir un impact, même d'impact climatique positif. Alors pour ça, Déjà, c'est problématique parce qu'en soi, typiquement, des boîtes comme Decathlon, elles ont besoin de se décarboner de manière générale. C'est pas parce qu'elles vendent des trottinettes que ce qu'elles vendaient déjà d'ailleurs à la base ou des vélos, c'était déjà leur cœur d'activité. Ça les empêche pas de se décarboner et de devoir mettre en place des activités de décarbonation qui ont des coûts, etc. Bon, voilà, je parle comme ça avec des pincettes parce que j'ai étudié le truc en profondeur et je préfère pas non plus trop m'avancer sur le sujet, mais j'ai pas l'impression en tout cas que ça permette complètement de flécher l'argent là où il y en a totalement besoin. Après, voilà, c'est des mécanismes d'incitation. Des fois, faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Bref, voilà. Mathieu, je te laisse.
Adrien D rajoute en soi, les dividendes ne permettent pas de revendiquer quelque chose et les dividendes ne sont pas cessibles contre de l'argent, il me semble. Je trouve l'idée intéressante pour valoriser les efforts. Tant que ça reste uniquement fictif et que rien n'est déduit des bilans carbone, c'est plutôt sympa. Et Mathieu, tu voulais.
Ouais, moi je vais marcher sur des os aussi sur le sujet, dans la mesure où je n'ai pas creusé plus que ça. Mais en fait, effectivement, la question derrière, si on veut faire le lien avec la question de comptabilité, à un moment donné. Il faut pouvoir avoir la preuve de l'audit, en fait. C'est-à-dire que quand on rend une comptabilité, derrière, il y a des commissaires de compte qui viennent auditer, qui peuvent du coup vous dire, OK, ben, typiquement, vous avez mis ça dans vos comptes, ben, montrez-moi la preuve que ça existe réellement, que ça s'est réellement passé. Donc, en fait, la question derrière, si on veut avoir, pour moi, une piste d'audit pour une intégration comptable, même non monétaire, hein, j'ai envie de dire, on peut très bien faire quelque chose, une comptabilité non monétaire, le suivi de ça, faut pouvoir d'ailleurs dire, OK, peut-être que mon dividende climat a été réalisé par, je ne sais pas, moi, j'ai installé des voiles sur des porte-conteneurs à la place de leur chaudière à mazout, là, ou autre, au GNR. Et donc, est-ce que je peux garantir que mon bateau a. Tourne avance qu'avec mes voiles, quoi. Et année après année, tu pourrais éventuellement dire, OK, ben, alors, pas année après année, c'est l'année où tu installes tes voiles, effectivement, ben, tu vas constater que tu as réduit tes émissions réellement. Bon, je veux dire, on est sur des émissions réduites, là, pour le coup. C'est aussi ça le sujet, c'est mettre les choses dans la bonne case. Et après, encore une fois, là, ça dépend, c'est aussi de chacun dans sa comptabilité. L'entreprise qui aura acheté les voiles, ben, elle va te dire, voilà, moi, j'ai réduit mes émissions de CO2 par l'année dernière de temps grâce à ça. Voilà. Après, elle peut très bien agrandir sa flotte de bateaux et acheter plus de bateaux qui n'ont pas de voiles et mettre ses émissions en plus que son budget carbone, dans l'absolu, hein, tout est possible. Mais voilà, on comptabilise tout, quoi. C'est ça le sujet qu'il y a derrière.
Et j'avais vu, il y avait une question aussi là-dessus, sur l'intégration des données environnementales dans le compte de résultats financiers. Est-ce que ça impacte les dividendes à la hausse ou à la baisse? Ben oui, comme typiquement, par exemple, les aujourd'hui qui ont des résultats négatifs, elles n'ont pas le droit de distribuer des dividendes. Ça s'appelle des dividendes fictives. Donc, à partir du moment où on intègre des coûts et que, admettons, la structure a un résultat en baisse, elle a forcément un résultat partageable en baisse, donc des dividendes qu'elle ne peut pas renverser. Pour compléter, enfin, par rapport en tout cas à ce qu'on cherche à faire en comptabilité écologique. Et là, je parle plus des dividendes climat.
Ouais. Ok. Ouais, vas-y.
J'allais dire, par rapport à Solitifen, en fait, on a souvent un schéma où on va avoir un rectangle qui représente l'entreprise. On va dire, voilà, on a l'actionnaire qui apporte de l'argent dans l'entreprise. Cet argent est mis dans la disponibilité. Derrière, il est utilisé pour acheter des matériaux, payer des salaires pour produire des biens et services. Ces biens et services sont vendus. Ces ventes permettent de rentrer des nouvelles ressources. Ces nouvelles ressources servent du coup en 1 à garantir le remboursement de l'actionnaire, la préservation du capital financier. Et après, le surplus, c'est le profit. Profit qui peut être distribué en dividendes ou mis en réserve ou faire voilà ou distribué. Donc derrière, le fait que dans la question de la comptabilité, où on intègre l'existence de préservation de capitaux naturels humains, eh bien on va dire on a des actionnaires financiers, naturels humains, qui apportent de l'argent, des ressources, de la force de travail, sont ça disponible, c'est mobilisé pour produire des biens et services, ces biens et services sont vendus, ces ventes permettent d'entrer de nouvelles ressources doivent garantir leur remboursement des capitaux naturels, humains et financiers. Et le surplus, c'est un profit. Mais pas garantir le remboursement des capitaux, de tous les capitaux naturels, humains et financiers. On ne pourra pas avoir de dividendes à distribuer.
Ok. Il y avait quelques autres questions. Ah oui, il y a une question sympa de Zipper Beer. Je suis comptable, comment je deviens comptable extra-financier?
Plein de moyens.
Alors,
il y a des formations, il y a des...
Ouais, il y a des formations. Alors, des formations, c'est vrai qu'elles ne courent pas toutes les rues. Juste pour moi, pour mon témoignage perso, à la base, j'ai une formation en économie, donc j'étais compteur de gestion, et j'ai repris un master en RSE. Du coup, j'ai mes deux casquettes. Mais là, il y a une formation à Dauphine qui s'est créée récemment. Je retrouve le lien. Donc, je sais qu'un des co-directeurs de la formation, c'est Clément Carne. Carne, c'est A-R-N. Voilà, et là pour le coup, la formation est vraiment orientée sur ce type de profil là. C'est la première qui existe, il me semble.
Et c'est des. Il y a beaucoup de comptables extra-financiers. Il y a un marché là-dessus. Il y a combien de personnes qui font ce que tu fais, Mathieu?
Alors, vu que depuis un an, donc j'avais nommé au tout début le CERCES, qui est une association. Cette association-là a un centre de formation et depuis un an, on forme des gens à ça. Donc il y a 40 personnes de formées en plus de moi, plus les doctorants qui maîtrisent le sujet aussi, plus alors sur l'aspect, l'approche dont on parle avec Tiffany depuis tout à l'heure, sur l'approche de la comptabilité CARE. Voilà. Et après, on est au début. Ouais, voilà. Au début. Après, si on parle de compta extra-financière pure et dure, on est sur l'aspect extra-financier pur et dur. Il y a plus de monde, c'est toute personne qui font du reporting d'extra financier entreprise, en un sens, c'est une forme de comptabilité, mais ce n'est pas au niveau de détails où on va là en intégration économique. Voilà. Là, c'est sûr, si on va au bout du bout, comme on présente ce soir, on n'est encore pas nombreux.
Et l'X18, décidément, quel public ce soir, nous dit « Petit témoignage, je suis auditeur financier, on va être OTI pour nos clients soumis à la CSRD ». Publication 2026 pour les données 2025. Pour l'instant, ouais. Ils sont dans les choux complets. Ça fait peur. Alors, je comprends pas la remarque, mais
ouais, je peux traduire. Mais alors du coup, en traduction, effectivement, la CSRD, donc la norme européenne Corporate Sustainability Report Directive. Est audité donc par les auditeurs financiers, et un OTI c'est un auditeur tiers indépendant, donc c'est un acteur extérieur à l'entreprise qui vient certifier les comptes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les commissaires aux comptes viennent certifier les comptes financiers de l'entreprise. Donc là, cette norme de durabilité demandée par l'Europe va être auditée avec le même niveau de rigueur en fait que les comptes financiers. Du coup, ça veut dire qu'il y a effectivement des formes de 90 et 120 heures respectivement pour ces auditeurs qu'ils vont devoir suivre pour pouvoir derrière auditer sérieusement ce rapport-là. Donc ça veut dire en fait quand l'entreprise va faire son rapport, elle va dire bah voilà, typiquement, j'ai déclaré que j'avais un plan d'action en ligne avec une trajectoire 1,5 degré. Bah, l'auditeur peut dire ok, très bien, montrez-moi la preuve. Comment vous allez le faire? Comment vous allez atteindre votre cible? Voilà. Ou alors de dire typiquement, bon bah, à la fin de l'année, vous avez dit que vous ferez un budget carbone de 300, vous êtes à 302. Bon, il y a un écart. qu'est-ce que vous allez faire l'an prochain pour corriger l'écart? Voilà.
Ok. Et Aubin dit coucou. Nous sommes en effet dans les choux, je confirme. Décidément, il y a beaucoup de gens qui sont comptés à la comptabilité dans mon chat. Et Lix me dit, c'est la première fois que c'est toi qui ne comprends pas ce que je dis et pas l'inverse. J'avoue. C'est à force d'être sorti de toutes ces problématiques d'entreprise, j'ai aucune culture de comptabilité. Et il y avait une autre marque, je crois que j'ai zappé. Ah ouais, bah, il peut nous demander votre approche, démarre-t-elle toujours par une ACV? Quand tu arrives dans l'entreprise, comment tu évalues, de quoi elle dépend et où ça pose problème, quoi.
Ouais, alors là, pour le coup, c'est un travail d'enquête. C'est-à-dire, on va vraiment aller questionner la direction, les équipes de l'entreprise pour comprendre comment ça fonctionne. L'idée, c'est qu'on va littéralement mapper le modèle d'affaires de l'entreprise pour voir en fait à quel endroit il y a des sources d'impact. Et du coup, on va pouvoir vraiment faire le lien, dire voilà, dans l'activité, par exemple, je reprends mon exemple de tout à l'heure sur l'entreprise industrielle qui génère des eaux usées. Ouais, on va dire voilà, à tel endroit, en fait, on va avoir un impact sur une rivière de déversement de polluants. Donc on a du coup un impact brut. Et après derrière, là, on va dire, ok, là, on a un sujet capital, qui est la rivière. Et derrière, après, c'est de dire, ok, par rapport à ça, maintenant, comment je suis l'état de santé de la rivière? C'est quoi les objectifs de bonne écologie à... Ah merde, je suis encore là ou ça a planté?
Non, non, non. Moi, je te vois
Ok.
encore, en tout cas.
Donc c'est quoi les objectifs de bonne état écologique de la rivière? Et donc derrière après, c'est quoi mes actions à mettre en œuvre? Donc, du coup, c'est vraiment un travail d'enquête comme ça qui va de mapper l'ensemble des impacts. On va en parler d'emploi en fait, comptable, qu'il y a derrière. Et de cette cartographie-là, on va pouvoir construire en fait les différents capitaux et construire les différents plans d'action, etc. Et c'est ce que font en fait les acteurs avec la CSRD en partie. Mais pas avec une structuration par capital.
Ok.
Complètement. Et en fait, c'est vraiment ça, on relie à la notion d'activité. En fait, c'est dans l'activité de l'entreprise, qu'est-ce qui fait qu'elle utilise la rivière? Elle l'utilise comment aussi, enfin, est-ce qu'elle y stocke des polluants? Est-ce qu'elle y pompe de l'eau? Enfin, voilà, on relie vraiment le cœur d'activité de l'entreprise avec ses impacts environnementaux à chaque fois. Et donc ça permet d'avoir une lecture qui est un peu différente. Qu'on a sur les ACV aussi.
Ouais, il y a une remarque de JMC 33 Big 5 qui dit, vous avez évoqué CAIR, il y a d'autres méthodes de comptabilité intégrées en cours d'expérimentation. Pourquoi choisir CAIR?
Ok.
C'est ton sujet de doctorat un peu, Tiffany.
Carrément. Parce que mon directeur de thèse.
T'as
Non.
pas eu le choix, toi.
Réponse, pas. J'ai pas eu tant le choix, oui, en plus, pour le coup, mais parce qu'en fait, pour raconter. Du coup, je vais expliquer un petit peu comment je suis venue à la thèse, parce que c'est comme ça que je suis venue à CAIR aussi. C'est que le cabinet dans lequel je travaille, donc ODIAS, eux, ils s'étaient déjà intéressés un peu aux différentes méthodes de comptabilité. Ils avaient rejoint des groupes de travail, notamment celui d'un groupe qui s'appelle la COP des communs, qui travaille sur des thématiques de communs de manière générale, donc de problématiques environnementales, en gros, comment on les traite en commun, ensemble, et ils ont un groupe comptabilité commun. Et eux, ils sont un peu intéressés à ça, et ils ont, dans ce groupe-là, entendu parler de la comptabilité CAIR, qui les a pas mal intéressés. Et en fait, moi, j'étais en master, je finissais mon master, j'étais entre mon master 1 et mon master 2, et ils ont envoyé l'offre de thèse, comme ça, où c'était indiqué. Et du coup, moi, enfin, moi, j'ai fait un diplôme de comptabilité et de gestion, donc un DCG, et ensuite j'ai fait un master en économie spécialisé plutôt en économie sociale et solidaire. Et donc, quand l'offre de thèse est arrivée, moi, j'avais jamais entendu parler de comptabilité écologique. J'étais partie de la compta parce que j'avais tout sauf envie de bosser dans un cabinet comptable. Ah, ironie du sort.
Moi, j'ai passé toute mon école d'ingé à dire que je ferais pas de doctorat et j'en ai fait un, donc
Ah mais
je
voilà,
comprends ce type d'ironie.
exactement. Mais typiquement, il y avait des gens dans ma classe de master qui étaient super, enfin, qui étaient super déter pour aller faire un doctorat. Et je leur disais, ouais, c'est bien, bravo. Ouais, vraiment, t'as du courage. Et voilà. Et 3 ans et 4 ans plus tard. Et en fait, j'ai appris ça, j'ai découvert le modèle en découvrant l'offre de thèse. Et j'ai trouvé ça hyper passionnant. Enfin, j'ai lu des bouquins, j'ai regardé, notamment il y a un TEDx sur le sujet qui a été fait par, j'ai perdu son nom, mais
De ferme d'avenir?
non, oh, si
D'accord.
peut-être, c'est comme je,
Mais
bon,
ça va me revenir.
Je remettrai dans les liens si jamais.
je suis en train de le chercher là.
et je sais pas. Enfin, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que en effectivement comme quelque chose d'hyper technique et de toujours enfin et d'objectif etc. Et là en fait on en parlait différemment comme quelque chose qui était transformatif, qui était politique, qui pouvait permettre de et qui contournait, je trouve aussi, enfin on en a pas mal parlé au départ, beaucoup de problèmes liés aux évaluations environnementales etc. Et en fait, j'avais vraiment envie de travailler sur quelque chose qui essayait de formuler des propositions et de se mettre dans l'action. Parce que bah, je trouve que quand on tombe un peu dans des problématiques écologiques, c'est un peu vertigineux et on a l'impression qu'il n'y a aucune solution et que c'est un peu, bah, faut qu'on change nos manières de faire, mais on ne sait pas trop comment, faut qu'on rentre en, enfin, faut faire de la transition écologique, mais rapidement on tombe sur des choses qui sont pas très efficientes, qui changent pas grand chose, etc. Donc vraiment de travailler sur un modèle qui cherchait fondamentalement à faire bouger les lignes des normes comptables, je trouvais ça vraiment très intéressant. Et ce qui est pas forcément le cas de tous les modèles de comptabilité, il y en a plein qui cherchent à aider les entreprises, par exemple, à faire leur reporting extra-financier ou avoir qui sont plutôt sur un mode de conseil qui est intéressant, mais qui n'est pas forcément sur une transformation des normes comptables. Et ça, cette dimension-là, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé passionnant à aller tester. Et voilà. C'est comme ça que et je suis un peu tombée dedans. Et du coup, mon directeur de thèse, c'est Alexandre Rambeau, qui est aussi un des cofondateurs du modèle. Donc, in fine, dans la thèse, c'était compliqué de parler d'autre chose. c'était de toute façon à la fois dans l'offre de thèse, dans la structuration, et parce que c'est même mon intérêt personnel sur le sujet. Alors, ce qui ne veut pas dire forcément que... on a aussi un regard critique qui doit être là, mais c'est comme ça que je suis venu là-dessus et pas forcément sur un autre modèle en particulier.
Ouais. Maxime de Rostelan pour la vidéo que tu cherchais, Adrien.
Alors non, c'est Sophie Danlos. C'est ça. Ouais, en fait Maxime de Rostelan d'avenir effectivement sur la question des groupes. C'est Sophie Danlos qui fait le TEDx et qui à l'époque était en direction de Termes d'avenir.
Il y avait une question d'Adrien que, pareil, je ne comprends pas toutes les subtilités. Du coup, Care vs la compta en triple capital. Vous en avez
c'est
parlé
la même chose.
Je ne pense pas. Ah, c'est la même chose.
En fait, ouais, alors, en fait, on va vous faire tous les petits noms. Vous pouvez parler de comptabilité verte, de comptabilité durable, de comptabilité intégrée, de comptabilité multicapitaux, de comptabilité triple capital. C'est déjà pas mal. Grosso modo, derrière tous ces termes-là, de comptabilité socio-économique, sociale, voilà, derrière tous ces termes-là, on parle de la même chose, à savoir de comment on intègre en comptabilité les questions d'environnement et de nature. Et après, derrière, la question, c'est le débat qu'on a eu au début, c'est maintenant, est-ce qu'on le fait bien pour travailler ou est-ce qu'on le fait pour gagner de l'argent en détruisant la nature ? En gros, pour schématiser. Et ce qui se passe, moi pour répondre pour compléter ce que dit Tiffen, c'est moi je suis arrivé sur l'aspect du modèle. J'ai refait un master RSE orienté recherche qui nous a fait étudier en fait, les différents papiers de recherche, études scientifiques, papiers scientifiques sur les différentes propositions de modèles existantes. En fait. Du coup, j'ai eu une analyse critique dans le cadre de la formation sur les différentes propositions. Et en fait, CARE est CARE, c'est un acronyme d'ailleurs. Hein, c'est pour Comprehensive Accounting in Respect of Ecology. C'est pas la santé comme en anglais, quoi.
Ouais, l'acronyme est bien choisi. On avait le jeu quand j'étais en doctorat de trouver des acronymes qui étaient rigolos. Ça tombe sur CARE, je trouve ça plutôt cool.
Ouais.
Ils l'ont fait exprès, je pense.
Ah, c'est bien probable. Et du coup, en fait, le papier de recherche qui était écrit le créateur de l'approche et Alexandre Rambeau en 2015, en fait, c'est une démonstration scientifique qui pose 6 axiomes à respecter pour garantir qu'on puisse intégrer la préservation des écosystèmes des humains dans les outils de gestion, la comptabilité, outils de gestion. Ce qui fait que là derrière, ils ont appelé une méthodologie qui répond à ces axiomes CARE. Et en fait, on pourrait très bien avoir d'autres acteurs qui décident de créer une comptabilité avec le même objectif, mais du coup, ils devront respecter ces axiomes. Là, on est sur un cadre de démonstration scientifique. Voilà, et c'est aussi pour ça qu'on est arrivé, enfin moi, c'est aussi pour ça que je suis arrivé sur ce sujet-là, par ce biais-là, en allant sur ce qui me semblait être à la bonne hauteur, en fait, pour traiter les enjeux d'intégration dans le monde économique. Voilà pourquoi CARE et pas d'autres. Et après, par exemple, sans citer forcément d'autres modèles, mais il y a des modèles qui peuvent, par exemple, dire on devait définir un modèle écologique sur la base de quotas. Exemple, il pourrait très bien dire voilà, on a une entreprise qui consomme de l'eau, eh bien parce que son secteur mobilise 3% de la consommation d'eau du territoire, on va lui fixer un quota de 3%. Ok, très bien. S'il dépasse son quota, eh bien elle a une dette. Ben, en fait, si on applique ça comme ça à un agriculteur peut très bien respecter son quota et épuiser la nappe phréatique. C'est décorrélé de la réalité. Voilà.
Ok. Je vois plus trop de questions. Il y avait d'autres points que vous vouliez aborder
Tiffaine, tu as des points que tu veux toi aborder en particulier ou...
Mais tu sais, il ne faut pas demander à un thésard s'il veut parler de sa thèse. Donc...
Si tu veux parler de... Si tu veux rajouter des choses, tu as carte blanche.
Non, mais je pense qu'on a fait on a fait pas mal le tour sur plein de sujets. On avait noté d'autres points, mais qui sont des gros morceaux aussi.
Pandou dit on est presque 60 à 22h35 pour parler de compta, impressionnant. On ne fait pas d'écriture comptable ce soir.
Alors, si vous voulez, on a un atelier d'écriture comptable demain.
C'est vrai.
Non, mais blague à part, je pense que l'intention aussi avec cela, c'était de vulgariser un peu le sujet dans les grandes lignes et effectivement d'apporter montrer que le débat existe et qu'il a besoin d'être mis en lumière, qu'il est tard à ce débat-là. Et peut-être aussi pour aller dans une autre source que je peux ajouter, par exemple, il y a d'autres modèles qui existent. Il y a une revue qui s'appelle, un hors-série d'une revue qui s'appelle Horizon Public, qui a posé un mapping des différents modèles. En fait. Et on retrouve des critères de comparaison basés sur les axiomes, en fait, pour voir comment chaque modèle se situe. Donc dans les critères, on va retrouver par exemple la question de la soutenabilité, faible ou forte. Soutenabilité faible, c'est par exemple, on peut compenser les capitaux entre eux. Ça veut dire, en gros, peut être bon sur le financier, mauvais sur le climat, ben ça compense. Bon voilà. Forte, c'est on ne compense pas entre capital. On préserve chaque capital pour ce qu'il est. Après, c'est-à-dire, ben voilà, j'ai une approche, je cherche à mettre en place des bons états écologiques. Des fois, la réponse est, je n'aurai même pas ça. Donc, tout ce qui est en approche, on va dire anglo-saxonne, par les prix, il ne se pose même pas la question. Ou alors, ça peut être de se dire, ben, j'approche ça par le donut. J'ai vu que Loïc avait pingé sur le donut un peu plus haut dans la discussion. En fait, le donut, c'est un super outil de vulgarisation pour parler des limites planétaires, des planchers sociaux. Mais derrière, en fait, si on va dans les papiers de recherche sur les limites planétaires, ils disent eux-mêmes, c'est un outil macro. Ça ne veut pas être mobilisé au niveau de l'entreprise, au niveau microéconomique. Mmh. Voilà. Donc derrière, en fait, donc il y a des modèles aussi qui disent, voilà, on va traiter les capitaux naturels humains en s'appuyant sur le donut. Bon, bah en fait, ils vont faire beaucoup de com, surtout. Voilà, parce que par exemple, dans l'île planétaire, où est la forêt ? Où sont les forêts ? Où sont les rivières ? Voilà, je serais curieux de vous aller voir, me montrer comment ils traitent la question de l'eau en grand pâté, ou la biodiversité en grand pâté dans leur comptabilité.
Moi, je prends pas toutes les piques, mais on pourrait me lancer sur les limites des limites, je pense. Donc,
il y a une vidéo pas trop mal. Alors, voilà, exactement. Non, mais... Je pense que.
Ok. Est-ce que vous avez des références, des livres, des sites, des vidéos les plus importantes pour votre sujet ? À part la vidéo de ma thèse en 180 secondes qu'on a déjà eu l'occasion de voir.
Ouais. Moi, je renverrai sur du podcast d'Alexandre Rambaud.
Tu me le mettras en
source. Ouais, je mettrai dans les sources. C'est un podcast au Shifters qui fait 45 minutes et que je trouve et assez clair. Il y a ça, il y a aussi son intervention chez Sismic qui est pas mal, qui est récente. Après, on a évoqué les questions. J'ai parlé un peu de l'histoire au début et de d'approche de comptabilité à l'échelle d'écosystème. Donc, on parlait de mise en débat de MG Caron, par exemple. En fait, l'enjeu derrière, on pourra des comptabilités à l'échelle d'écosystème. Du coup, comment on s'organise entre acteurs pour préserver un même écosystème. Donc là, notre vidéo qui est intéressante, qui est sur la chaîne Comprendre et Agir, qui est tenue par le laboratoire de l'INRIA à Grenoble, qui sont des trucs très quali, avec Clément Feger. Il y a ça aussi. La vidéo qu'on a fait à Sciences Po avec Alexandre, on parle à deux voix. Alexandre sur la partie cas scientifique, moi sur retour d'expérience. Donc là, j'ai trois cas pour retour d'expérience. Des questions avec la salle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tiffany, t'en vois, toi, des sources
Ouais, y a ton intervention aussi à France 24. On a là, du coup, des témoignages aussi d'une entreprise qui a mis en place CARE avec Mathieu. Il y a aussi Compta Durable qui a récemment sorti des fiches avec des retours d'expérimentation sur plusieurs fermes et des petites fiches aussi
ferme
avec...
d'avenir.
J'ai dit quoi ?
Compta Durable. Compta Durable, c'est le nom de la boîte à qui je bossais avant qu'on soit racheté par Hendrix.
pardon, désolé, je pense que c'est le... La fatigue. Donc oui, Ferme d'Avenir. Merci Mathieu. Ferme d'Avenir qui a donc réalisé des petites fiches avec qui sont très bien faites, qui sont assez courtes sur des expérimentations qu'on peut télécharger. Et il y a aussi plein de concepts qui sont expliqués des fiches assez courtes. C'est assez sympa. Il y a quoi d'autre
dans les livres? Parce que je vois qu'il y a effectivement dans le chat qu'il y a le livre d'Arbego qui était cité, effectivement, La Compta Durable. Il y a un manifeste qui s'appelle Révolution comptable de Jacques Richard et Alexandre Rambaud, qui se lit assez bien pour le coup. Hein. Ça, c'est vraiment accessible. Je vous épargne les livres, sauf pour ceux qui veulent des références de bouquins techniques de cours. On peut vous envoyer là-dessus. Et sinon, il y a dans le style de livre où vous avez toute la thèse. De manière écrite, il y a Philosophie d'une écologie anticapitaliste d'Alexandre Rambaud et Jacques Richard aussi.
Et un bouquin, alors qui est plutôt sur le volet des économistes, là tout à l'heure on parlait des différents modes d'évaluation qui étaient un peu. Il y a Comment les économistes réchauffent la peau d'un potier, qui est vraiment très bien, qui se lit très bien et qui explique plein de mécanismes de. Comment les économistes sur la planète, du coup, c'est hyper
vrai. Bon, on va s'approcher de la fin, je pense. Tout le monde commence à fatiguer. Le chat se vide petit à petit. Vous êtes habitué de Twitch, vous deux, Tiffany et Mathieu?
Du tout.
Non.
C'est ma première fois que.
Ouais. Est-ce que dans le public, il y a des idées pour envoyer en raid? Sinon. Je vais voir un peu ce qui se passe. Parce qu'à la fin de Twitch, normalement, on envoie le public vers une autre chaîne. C'est la tradition. On fait un raid.
D'accord.
Moi, j'aime bien Civilization 6, hein, donc ça peut finir chez le joueur du grenier si vous ne trouvez personne. Hein. donc, ouais, on va se rapprocher de la fin. Est-ce que vous voulez un petit mot de la fin? Quelque chose que vous n'avez pas eu le temps d'exprimer? Un résumé?
Un petit mot de la fin.
Un point important sur lequel insister.
Non, moi, un petit mot de la fin. Je ne sais pas s'il y a un pote de Grenoble qui est là. J'aime bien citer Edgar. parce que finalement, on arrive sur la question de comptabilité écologique aussi pour dire comment on peut être dans l'action pour bien gérer les choses. Et en fait, l'AFD a posé la question à Edgar Morin en 2020. Êtes-vous pessimiste par rapport à l'avenir? Il répondait. Je ne suis ni pessimiste ni optimiste, je vois bien que le cours des choses est compliqué. Regardez pendant la guerre, il n'y avait plus d'espoir et en fait, deux événements ont survenu. Donc l'entrée en guerre des États-Unis et la victoire et la défaite à Stalingrad. Et à partir de là, tout a basculé. En fait, on n'est pas à l'abri qu'un événement impromptu survienne et que le cours des choses bascule. Bon, ça peut donner deux sens, hein, mais ça pour dire que, en fait, même si la comptabilité ne va pas forcément sauver le monde, ça peut aider à créer des points de bascule avec des effets de levier.
Donc voilà. La comptabilité écologique, ce sera notre Stalingrad.
Peut-être.
Tiffen, quelque chose à rajouter ?
Non, je trouve que c'était plutôt bien dit. Surtout merci pour nous avoir donné l'opportunité de parler de comptabilité et merci à tous ceux qui sont restés, comme le soulignait quelqu'un, près de 60 à 22h30 pour parler de compta, c'est un exploit, donc merci à tous ceux qui sont restés aussi jusque là. Et ouais. Voilà, et du coup c'était une super expérience, en tout cas, voilà, on fait ça. Donc.
Ouais. Bah, c'est vrai que un grand merci Rodolphe pour le temps.
Ah bah, et à tous. Merci à vous d'être venu parler d'un sujet où je vous ai laissé en roue libre parce que vous avez pu raconter n'importe quoi ce soir. Je n'aurais pas eu trop conscience. Non, ça va. J'ai quand même compris des trucs. J'exagère, mais c'est intéressant. C'est important de comprendre l'importance politique de ce qu'on compte sur la direction dans laquelle on veut aller. Quoi. C'est vrai que je pense qu'on n'a pas toujours conscience et c'était bien de faire un peu le point là-dessus. J'ai pas trop de suggestions. Je pense que je vais vous envoyer voir le joueur du grenier parce que j'ai trop joué à Civ 6. Vous allez voir, est-ce qu'il arrive à sauver le monde ou pas. Et voilà. Donc on lance le raid tranquillement. On va pouvoir dire au revoir à tout le monde. Vous avez pas mal de messages de remerciements dans le chat. Je pense que ça a plu. Et puis on fera la rediff demain. Dernière annonce quand même, je suis bientôt papa, ça va pas tarder. Donc ce soir c'est le dernier live avant quelques temps. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas la dernière fois, sachez-le. Donc je vais pas prendre le risque de programmer un live mardi prochain. Et voilà, bonne continuation à vous tous et à une prochaine, même si je ne sais pas quand. Et Mathieu, Tiffen, vous pouvez saluer et leur souhaiter bonne nuit aussi.
Eh bien, bonne nuit à toutes et à tous. Alors, bon raid.
Bonne nuit, bon raid.
Et ça marche.
Et bonne entrée dans la paternité à venir, Rodolphe.
Merci. Allez, salut à tous et à la prochaine.